Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, une émission d'actu, on va revenir sur toutes les news de votre discipline préférée. Comme toutes les semaines, je ne serai pas seul. Alors, sont-ils nus en slip en ce moment même, pendant que nous enregistrons? Car il fait plus de 35 degrés dehors, hein, ne l'oublions pas. Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
Bonsoir Jackie.
25 chez moi.
Et bonsoir Bûcheur.
Bonsoir, petit joueur Jackie, 24 chez moi.
Bonsoir à tous.
Pas trop chaud?
Ah ben non, très bien.
Si. Là, il fait 30 dans ma pièce.
Et une pensée, d'ailleurs, pour tous nos auditeurs, eux aussi, peut-être, pendant qu'ils vont nous écouter, sous la chaleur. Voilà, c'est triste.
Et aux personnes âgées, qui ont dit, ce n'est qu'un au revoir, hein, mais ça va. On se retrouvera bien dans quelques années.
Oh. Non, mais n'oubliez pas de boire avec ces fortes chaleurs.
N'empêche, ça va peut-être nous donner un grand prix de Grande-Bretagne très chaud.
Après les pluies qui explosent à Silverstone et les pluies qui fondent.
Car la canicule n'est pas qu'en France, en Suisse et en Belgique, hein, elle est aussi au Royaume-Uni.
Je confirme, j'y étais hier et c'était intenable.
Chaleur, peut-être orage. Alors messieurs, pour commencer cette émission, un jeu comme d'habitude. Alors je me suis inspiré de l'actualité. J'aurais pu faire quelque chose sur la Grèce en Formule 1, mais vous savez, la Grèce en Formule 1, c'est comme si j'avais fait quelque chose comme le Soudan ou le Tadjikistan en Formule 1. C'est-à-dire que la rubrique aurait déjà été terminée avant d'avoir commencé.
L'Azerbaïdjan.
Ah ben non. L'Azerbaïdjan va laisser une trace en F1. Elle. Non, bien évidemment, c'est la chaleur, et quand on pense chaleur et Formule 1, messieurs, bah moi, ça me donne des idées, ça, je vais pas dire que ça me donne des souvenirs, mais moi, forcément, quand il y a chaleur et Formule 1, je pense à ça.
Dallas.
Ton univers incroyable.
Oui, messieurs, cette semaine, nous allons parler d'un Grand Prix. Nous allons parler d'un Grand Prix qui a eu lieu en 1984, qu'on appelle le Grand Prix des États-Unis, mais aussi le Grand Prix de Dallas, et tout qui est célèbre.
Tout ça pour mettre le générique.
Non, le générique est venu après que j'ai eu l'idée. Un Grand Prix qui avait eu lieu le 8 juillet 1984, et qui est célèbre pour cette image d'un Nigel Mansell poussant sa Lotus courageusement pour atteindre la ligne d'arrivée, hein, sous une chaleur torride au point qu'il en est même tombé dans les pommes, hein. Mais cette histoire, ce n'est qu'une des histoires dans ce week-end particulier de l'histoire de la F1, et donc je vous propose un petit vrai ou faux, hein. C'est un jeu tranquille, hein, cette semaine.
J'avais déjà commencé à mettre les noms.
Ah non, moi j'étais largué.
Non, j'ai pas fait les dents, je me suis dit c'était trop facile. Non,
mais qui gagne du coup?
Non, personne. Je me suis dit, il fait super chaud, l'émission va être longue, c'est relax.
Très bien.
Hein. On le sent déçu quand même, hein. On le sent bien déçu.
Non, c'est bien Shinji d'avoir pensé à nous.
On pourrait jouer bien. Les saucisses qu'on a prévues pour le barbecue après. Parce que...
Et donc, ce Grand Prix de Dallas en 1984 avait lieu sur l'illustre, j'ai envie de dire, circuit de Fair Park. Et première affirmation, il faut savoir que ce circuit de Fair Park, qui est dessiné dans un parc ludo-éducatif, hein, y a des musées, hein, dans ce parc de Dallas, malgré la mauvaise réputation qu'il a acquis lors de ce week-end, eh bien, il avait pourtant précédemment accueilli des manches de championnat kart. IndyCar, hein, si vous voulez, pas kart, CRT, bien évidemment.
Bien évidemment.
Je pense pas. Pourquoi?
Puisque Gus Gus dit faux, moi je dis vrai.
Moi je dis faux aussi parce que je pense que le kart c'était pas les ovales justement à cette époque-là.
Non.
Non, pas encore. Enfin, il devait y en avoir, mais pas autant qu'il y en a eu par la suite avec l'IRL.
Mais moi je dis faux quand même.
Il persiste.
Vous avez raison, en effet, cette merveille, entre guillemets, a été dessinée exprès pour accueillir la Formule 1, parce que Dallas voulait montrer qu'elle était une ville mondiale. Hein. Alors, malgré l'aide quand même de Chris Pook, hein, qui était responsable du Grand Prix de Long Beach, qui est un circuit déjà beaucoup plus connu dans l'univers de la monoplace américaine.
Impitoyable, eh bien,
oui, l'impitoyable. Et donc, ça n'a pas empêché de nous offrir une piste, j'ai même pas envie de dire indigne de la F1, mais indigne de la course auto tout court, hein, puisque là, parfois ce sont les pneus qui explosent. Là, c'était bien la piste qui partait en lambeaux sous la chaleur. Hein, d'ailleurs, lors de ce week-end, il faut savoir qu'il y a eu des rumeurs d'annulation pendant tout le week-end, hein, et que jusqu'au dimanche matin, par exemple, certains pilotes comme Lauda ou Prost envisageaient de boycotter la course. Alors, ce Grand Prix de Dallas, deuxième affirmation, fut l'un des trois plus chauds de l'histoire, avec l'Argentine 1955 et Bahreïn 2005, atteignant les 40 degrés dans l'air.
Oh, il y a dû avoir la Hongrie quand même à 40 degrés. Hein. Ah, je dis faux aussi.
Mais j'ai un doute, je sais pas si c'est pas Las Vegas plutôt que Dallas.
Ah oui, Las Vegas, il fait chaud aussi.
Il y en a un des deux où effectivement c'est même le plus chaud, mais alors, enfin, d'après, en tout cas récemment, depuis qu'on enregistre la météo.
C'est vrai que ce serait bien un coup comme ça de Shinji de dire ouais, c'est un des trois avec Dallas, ouais. Alors que c'est juste à côté, il y a Las Vegas.
Ah, mais c'est le pire, Shinji, de toute façon.
Ah, bah oui, c'est vrai.
Je vais dire vrai quand même.
Moi j'ai dit faux.
Moi j'ai déjà dit faux moi.
Alors a priori c'est vrai, hein, j'ai pas toutes les données de tous les, même s'il y a eu des Grand Prix extrêmement chauds qui ont dû atteindre les 36-37 degrés, rarement, ce sont les trois seules fois où en tout cas on a repéré des températures à plus de 40 degrés. Hein. À noter par exemple que Goodyear, donc, qui était manufacturier, le samedi après-midi, lors des qualifications notamment, avait enregistré une température de 38 degrés dans l'air et de 66 degrés au sol. Tu ne mets pas ta main, hein. Des niveaux que, sur le coup, elle avait déclaré qu'elle n'avait jamais vu en 20 ans de présence en F1.
Ah, mais ça, c'est clair. Imagine ça chez Pirelli.
Oula.
Les pneus extra durs, ils font un tour.
Mais il y en a eu un à 62 degrés sur la piste il y a pas si longtemps.
Cette année, il y a eu un Grand Prix. Non, mais même en début d'année, il y a eu un Grand Prix très chaud. Oui. Je sais plus lequel.
La Malaisie. Imagine.
66 degrés au sol. Et alors donc, face à ces chaleurs, la course, qui donc devait avoir lieu en début d'après-midi, a été avancée à 11h30 pour éviter les grosses chaleurs. Et donc, de facto, on a avancé le warm-up, puisqu'il y avait un warm-up à l'époque, à 7h30. Un horaire tellement matinal que Patrick Tambay arriva au paddock en pyjama. Ah.
J'ai dû dire que c'est vrai. Ah non, ou alors c'est pas Patrick Tambay, c'est quelqu'un d'autre.
C'est son bon, allez, double c'est magnifique.
Tu penses à qui, Gus Gus?
Non, je sais pas.
C'est pas Jacques Lafitte à qui c'est arrivé, ça?
C'est vrai que ça ressemble plus à Lafitte.
Alors oui, je dis faux, oui, ça ressemble plus à Lafitte.
Maintenant, je dirais faux parce que déjà, reporter une séance en F1, on sait que bon, voilà, c'est
compliqué. Bah, à l'époque, ils étaient.
Et d'autre part, je sais plus pourquoi, j'avais deux raisons, mais j'ai oublié la deuxième. Mais je dis faux.
Eh bien, c'est faux, puisque en effet, ce genre de choses n'arrive qu'à Jacques Lafitte. Et le plus frustrant, c'est qu'il aurait pu dormir plus longtemps dans son hôtel, car bien que le warm-up ait été avancé, il a finalement été annulé parce que la piste a dû être réparée, était vraiment dans un état déplorable, à cause d'une course de Can-Am qui avait eu lieu la veille. Donc il aurait pu rester dans son hôtel, voilà. Ça devait être charmant d'arriver comme ça en pyjama. Ensuite, on a retenu l'image incroyable de Mansell, donc poussant sous la chaleur sa Lotus en course, mais on oublie que ce fut la première pole de sa carrière.
84, il était, oui, sur Lotus.
Vrai.
Ouais, ça doit être vrai, ça.
Je pense que je dirais faux. Enfin, en 84, j'ai pas souvenir que Lotus était très très performante. Après, je peux me tromper, hein.
Eh bien, c'est vrai.
J'étais pas né, comme on dit. Ah,
bah, c'est vrai, c'était la première pole de Nigel Mansell. Et donc, la pole plus son morceau d'héroïsme n'empêcha pas Peter Warre, quelques temps après, lui signifier qu'il ne serait pas renouvelé chez Lotus l'année d'après, qu'il serait remplacé par le jeune Ayrton Senna. Super. Après 5 saisons infructueuses chez Lotus. Hein.
Chico Serra, tu as dit?
Non, Ayrton Senna.
Je connais pas.
Ensuite, il faut savoir que la course était prévue pour 78 tours. Elle a été réduite à 68 avant le départ. Et finalement, elle n'a duré que 50 tours, topée au bout des 2 heures réglementaires.
Ça existait, les 2 heures réglementaires, à l'époque?
Il y avait déjà les 2 heures réglementaires.
Mais comment ils pourraient décider de réduire la durée de la course en pleine course?
Non, ils n'ont pas réduit la course pendant la course. C'est avant le début de la course, ils ont dit on ne fera pas 78 tours, on en fera 68. Et finalement, ils ont fait la course, elle a duré 2 heures, et sauf qu'au bout de 2 heures, ils n'avaient fait que 50 tours.
Non.
Et moi, je dirais vrai.
Ouais, moi aussi, je dirais vrai, parce qu'ils ont peut-être dû vraiment ralentir les voitures pour ne pas exposer les pneus.
Non, mais il y a dû avoir des safety cars ou des trucs dans le genre.
Ah, ça n'existait pas, les safety cars à cette époque-là.
Non, il n'y avait pas.
Ah, le premier safety car est en 73, messieurs.
Non, mais pas généralisé.
Oui, mais c'est pas généralisé après. Attends, le début des années 90.
Moi, je dis faux.
Moi, j'ai dit quoi, moi? J'ai dit vrai, moi.
J'ai dit vrai. Alors, c'est faux. Alors, elle a bien été réduite à 68 tours. Ils l'ont bien fait passer de 78 à 68 tours avant le départ. Elle a bien duré 2 heures. Mais au bout de 2 heures, ils avaient quand même fait 67 tours. Comme quoi, ils avaient quand même bien calculé leur truc. Hein. Mais elle a été interrompue au bout de 2 heures à 67 tours quand même. Ensuite, puisqu'on a mis le générique de Dallas, il faut savoir que le drapeau vert du tour de formation fut brandi par Patrick Duffy, star de la série Dallas et amateur de sport automobile.
Vrai.
Oh oui, c'est vrai. Ou alors non, tu vois, ça se trouve c'est JR qui a dû le faire. Non, je vais dire faux. C'est JR.
Je vais dire faux aussi.
Eh bien, c'est faux. Et notre JR a eu raison. Car c'est bien Larry Hagman, JR lui-même. Alors, je sais pas s'il est fan de sport automobile, mais c'est lui qui a brandi le drapeau vert du tour de formation lors de cette course.
C'est lui qui a fourni le carburant aussi, le pétrole.
C'est possible. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui a gagné cette course?
Non.
Comme si c'était hier.
Eh bien, c'est Keke Rosberg sur Williams. Sa troisième victoire. Il était déjà champion du monde, mais il n'était qu'à sa troisième victoire. Victoire sur Williams Honda. La première victoire pour le constructeur japonais depuis 1967 et la première pour un V6 turbo Honda.
Ah, ça me paraît plausible. Parce que Honda a gagné une ou deux courses, effectivement, dans les années 60. Ils sont pas revenus tout de suite et 84 ça me paraît être une bonne date pour leur retour. Enfin, je sais qu'ils ont eu ils ont motorisé quelqu'un d'autre avant Williams mais que oui, ça me paraît, je pense que c'est le début de Williams Honda.
Non. Bon. Moi non, c'est faux ça.
Mais puisque Gus Gus dit vrai, je dis vrai.
Quel girouette ce mec.
Oui, officiel.
Moi j'ai dit faux moi.
J'ai dit faux.
Parce que c'est pas
alors en effet. En effet, Honda a gagné deux victoires dans les années 60, au Mexique en 65 avec Richie Ginter et en Grand Prix d'Italie 67 avec Surtees. Et il a fallu attendre, en effet, le Grand Prix de Dallas en 1984 avec Keke Rosberg. Williams d'ailleurs qui sortait de plus d'un an de disette. Alors entre 84 et 82, ils ont aligné quand même 69 victoires, hein, avant une dernière étoile filante, on va dire. En Hongrie 2005 pour Button, ce qui donne un total de 72 victoires pour le moteur Honda.
Pas mal.
Et enfin...
Ils en sont encore loin actuellement, mais pas mal.
Oui, ils en sont loin.
Du top 10, oui. Ils sont loin du top 10.
Ça dépend. Le top 10, utiliser 10 moteurs. Je
pense qu'ils vont... ils vont même le dépasser.
Ils vont les faire, ça.
Et enfin, sur les 17 pilotes qui ont abandonné et qui n'ont pas vu la fin de la course, je vous le dis tout de suite, on ne met pas Nigel Mansell dedans, lui il a fini, hein. Seulement 5 le sont sur problème technique, tous les autres le sont sur accident ou accrochage.
Ah, c'est pas impossible, la chaleur, ouais. Hein, beaucoup de chaleur, déshydratation, déconcentration.
Elle est vraie.
Puis Olivier Panis n'était pas arrivé avec son truc de mettre du thé dans la gourde, donc... Et vous remarquez que Olivier Panis, quand on en parle dans les commentaires de la F1, etc., c'est Monaco 96 et le coup du sachet de thé. C'est de ce truc qu'a fait Olivier Panis en Formule 1.
Il s'est crashé aussi au Canada.
Mais ça, tout le monde s'en fout. Curieusement. Oui. Quelle était la... Ah oui.
Donc il y a eu 17 pilotes qui ont abandonné en course et seulement 5 sur des problèmes techniques.
Allez, ça me paraît. Je te fais confiance, Shinji, je vais dire vrai. Je sais que je devrais pas.
Moi, je veux dire faux, il y a trop de détails.
Mais non, c'est les chiffres, c'est détaillé avec Shinji, forcément. Limite,
limite. Sont-ils utiles ?
Non, justement, ils sont inutiles, ces chiffres-là, donc ça doit être vrai. Mais limite, tu pourrais reprocher à Shinji que ce soit pas assez détaillé comme chiffre.
Eh bien, écoutez, je peux vous dire que... Donc, alors, Mansell a fini la course, hein, malgré son problème de boîte de vitesse. Que Thierry Boutsen a eu un problème de moteur au 55e tour. Que Ayrton Senna a eu un problème de transmission au 47e. que Jonathan Palmer a eu un problème électrique au 46e, que Nelson Piquet a eu un problème d'accélérateur au 45e, que Hub Rottengatter sur Spirit Art a eu une fuite d'essence au 15e tour. Et sinon, Niki Lauda, accident au 60e tour, Alain Prost, accident au 56e, Alboreto et Surer, accident au 54e, Johnny Cecotto, accident au 25e, comme Patrick Tambay, accrochage pour Andrea De Cesaris au 15e tour, Ricardo Patrese, 12e tour, accident, Derek Warwick, 10e tour, accident, Stephen Bellof, 9e tour, accident, Eddie Cheever, 8e tour, accident, et François Hainaut, premier tour, accrochage. Et j'ai même pas compté Philippe Alliot et Brundel qui, bon, ont été non qualifiés et non partants, qui aussi ont eu des accidents. Donc c'était vrai.
Et t'as même pas Maldonado dans tous ces accidents.
Non, c'est étonnant, mais non.
Et donc aucun safety car malgré tous ces accidents. Qu'a fait la direction de course, hein, très franchement.
J'avais pas moyen d'avoir une safety car.
Elle a vu un accident.
Donc voilà, c'était tout pour ce Grand Prix de Dallas. Alors, il va sans dire que plus jamais la F1 n'a voulu revenir sur ce circuit. Qu'apparemment, il y a eu une course en 88 sur une version remaniée de ce circuit, hein, qui a traîné quelque part. Mais voilà, que ce soit pour la F1 ou pour n'importe quelle autre discipline, non, non. Les pistes qui partent en morceaux, c'est pas top.
Il y avait Canada. Hein.
Oui, voilà, il y a pas
dans
si
les bangles.
En 2008.
Mais c'était pareil, c'était, enfin, ça avait été resurfacé à de mauvaises conditions et ça n'avait jamais eu le temps de se durcir, en fait. Je crois que c'est ça. Et quand les F1 étaient passés, ils avaient tout décapé, quoi.
Mais après, le Canada, ça restait un secteur. Là, visiblement, c'était vraiment tout le circuit qui était déplorable, quoi. C'est...
Et puis imagine avec les chaleurs, la chaleur qu'il devait faire, je pense au public.
Apparemment, il y avait quand même 90 000 personnes. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait la course. Ah, ben non, il y a 90 000 personnes qui sont venues, on va faire la course.
Bah ouais.
Allez messieurs, on va passer au cœur de l'émission et aux actualités. Hein. Et on va commencer par une nouvelle là, qui est sortie pendant les deux semaines. Là où dans certains pays ce sont des opérateurs télécoms qui se rachètent, eh bien dans le monde de la F1 c'est la F1 elle-même qui pourrait se vendre, hein. On le sait, CVC c'est un fonds d'investissement, ils veulent faire une plus-value et visiblement il y a des acheteurs. Alors on a cité un duo, hein, qui pourrait racheter la F1, hein, constitué par le Qatar et le propriétaire des Miami Dolphins, Stephen Ross. Pour être précis, Stephen Ross rachèterait la part de CVC, hein, qui est actionnaire de référence avec 34% de la F1, et le Qatar rachèterait tout simplement tout le reste. Alors ça, c'est une des premières hypothèses, mais il se dit aussi que d'autres acheteurs, hein, seraient intéressés. Notamment, je vois que... Alors, il y a Sky, hein, notamment, qui pourrait être intéressé, là encore, soutenu par un milliardaire américain.
FanGP, non ?
Non, John Malone, qui possède Liberty Global. On a cité aussi le milliardaire canadien Lawrence Stroll. Et rappelons qu'on avait aussi évoqué le fait que Red Bull aussi voudrait peut-être acheter la F1.
C'est bien parti.
Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se faire du flouze là sur la F1, d'après vous ?
De toute façon, CVC, depuis qu'ils sont arrivés, c'est une nouvelle qui sort de temps en temps dans certains papiers économiques, ils ont déjà fait 400% de bénéfices par rapport à la mise de base. Donc, bon, ils se sont déjà fait du flouze et là, ils vont encore s'en refaire en vendant leur 34-35%. Parce qu'ils ont envie de vendre. Enfin, ils ont fait le. C'est bon, quoi. C'est bon,
pas non plus. Et puis je pense qu'ils se disent que c'est le bon moment.
Oui.
Avant que ça redescende.
Oui, c'est peut-être ça. Oui.
C'est peut-être ça.
On peut. Ouais, ça semble logique, en fait, qu'ils veulent vendre. Comme vous disiez, ils ont remboursé. Alors, tu disais, il a fait 400%. J'ai plus le chiffre exact, mais je me souviens qu'ils avaient fait un prêt de 15 ans, je crois, pour acheter la F1. Et ça avait été remboursé en 5 ou 6 ans. Parce que ils s'attendaient pas à ce que ça rapporte autant.
Ouais, un dividende.
Ouais. Et donc du coup, comme c'est un fonds d'investissement, ça veut dire à un moment ou à un autre qu'ils doivent se désengager.
Oui. C'est le principe même des fonds d'investissement.
C'est le principe. Est-ce qu'on est dans une période où
la F1 est potentiellement à... Enfin, est-ce que c'est une période d'incertitude pour la F1? On peut dire véritablement oui. Aujourd'hui, il y a tellement d'incertitudes sur les moteurs, sur les motoristes qui veulent y rester, sur les gros sponsors comme Red Bull qui veulent rester ou qui veulent pas rester. Si on enlève Renault, si on enlève Red Bull, la F1 n'a plus du tout la même valeur. Même s'il reste encore des grands constructeurs comme Ferrari, McLaren, Mercedes, voilà, ça reste, ce serait probablement un championnat qui serait un peu dévalorisé. En plus, oui,
d'autant plus que rappelons que McLaren n'a pas de sponsor.
Oui, ça fait 3 ans. Merci de.
À ton service.
Et que Haas l'année prochaine va arriver ou pas. Non. Voilà, ça semble super logique qu'ils veulent chercher à au moins mesurer s'il y a des potentiels acheteurs.
Ils auraient mandaté Goldman Sachs, donc ils prospectent.
Voilà, c'est après qu'il y en ait 1, 2, 3, voilà, s'il y en a plusieurs, ça veut dire
ils
peuvent faire monter les enchères. Qu'il y en ait un, ça me paraît déjà bien, oui. Mais. Parce que c'est pas un petit gâteau, la F1, quand même. Hein. C'est
un morceau. Gros.
Là, dans l'hypothèse de Qatari, on parlait d'une valorisation à 20 milliards.
Je sais plus combien ça avait été vendu, la F1.
Pas 7 milliards. Pas 20 milliards.
C'était pas 7 milliards.
Je me demande ouais, si c'est pas... C'est un chiffre qui me paraît cohérent.
7 milliards pour tout ? Parce que pour lui, il y a CVC, puis il y a plein de parts, en fait.
Là, dans le papier que j'ai, c'est de 7 à 8 milliards pour les 35% de CVC.
Mm.
Donc la valorisation, ce serait grosso modo 3 fois ça, quoi. Donc ouais, autour de 20 milliards de dollars. Mais sans rentrer dans les considérations qui disent ça les vaut ou pas, de la part des actionnaires, en fait, la F1, c'est un business qui ne demande quasiment aucun investissement, autre que celui de rémunérer les écuries, grosso modo. Parce que l'appareil productif, si on veut faire des analogies de la F1, c'est la moyen de faire de la diffusion du flux télé et le site internet, et l'appli, etc., etc. Donc c'est
Twitter. Oui, voilà,
ça rapporte rien, Twitter. Voilà,
c'est un community manager, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est des tout petits investissements quand comparés aux sommes qui sont en jeu sur les droits télé, sur les circuits, etc., etc., quoi. Parce que les circuits, c'est la FIA et les circuits eux-mêmes qui s'en occupent. Voilà, c'est même si ça baisse ces prochaines années, ça restera quand même quelque chose qui, a priori, va être lucratif.
Il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que les caméras, par exemple, tout ce qui est diffusion, tu parlais, c'est des investissements qui ont été faits, mais qui vont être à refaire aujourd'hui. Je suis tombé, alors, vous avez tous dû voir le dernier virage de Valentino Rossi sur le MotoGP à Assen.
Non, la Dorna avait enlevé toutes les vidéos sur YouTube.
Et... Je me disais en voyant la vidéo en fait il y avait un affichage de en temps réel des vitesses engagées, de la vitesse atteinte en affichage en temps réel, pas comme ce qu'on a en F1, ça suivait vraiment la moto en fait en temps réel. Donc ça veut dire que c'est des investissements. Les caméras.
De toute façon,
je poursuis mon propos. Il va y avoir aussi les caméras rotatives qu'il va falloir faire quelque chose parce que en comparaison avec les autres séries, quand tu regardes ce qu'il y a sur la Formule E, quand tu regardes ce qu'il y a sur l'IRL, quand tu regardes ce qu'il y a sur même l'endurance.
Mais
en comparant, il va bien falloir que la F1 se mette à jour.
De toute façon,
c'est ça va même. Mais
Jackie, tu focalises sur un point que c'est un investissement peanuts vu le chiffre d'affaires de la F1.
Si tu es capable de mettre 7 ou 8 milliards sur la table, tu peux en mettre 100 millions, 150 millions pour changer toutes tes caméras.
Sans parler du fait que c'est un truc perpétuel.
Ce que je veux dire, c'est que si il n'y a pas d'investissement et on s'en plaint sur ces domaines-là aujourd'hui par CVC, c'est peut-être effectivement parce qu'ils n'ont pas envie de remettre dans l'argent de moins en moins pour revendre rapidement, quoi.
Mais c'est pas de l'argent que CVC a besoin de mettre. Tu prends cet argent-là sur ce que rapporte la F1.
Non, mais
sur le chiffre d'affaires. C'est une dépense interne. C'est pas un truc, c'est juste que ça rogne un poil les dividendes des actionnaires. Et du coup, c'est même pas.
Quand tu sais que tu veux vendre vite, tu vas pas investir. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, ce que je vois. C'est aujourd'hui, ça collerait, hein, de toute façon, qu'ils vendent. Et s'ils attendent trop longtemps, ils risquent de se retrouver avec un... Ce ne faudrait pas que pour CVC ou pour les investisseurs qui, et pour la F1 en général, pour le sport, il ne faudrait pas que ça fasse pchit comme la bulle Internet à une époque. Quoi.
C'est le meilleur moment pour maximiser leurs bénéfices. Le problème, c'est qu'il y a l'incertitude de qu'est-ce que vaudra la F1 dans 3-4 ans.
Ah, ça. Mais d'un autre côté, un changement de propriétaire de la F1, c'est pas forcément une mauvaise chose. Que ça tombe, ça pouvait se faire bientôt, ça pourrait amener une vision neuve, un sang frais, j'allais dire, dans la F1.
Ça pourrait amener le Grand Prix du Qatar.
Clairement.
Mais les contrats dans le cas d'un achat par le Qatar. Hein.
Mais
les contrats sont les contrats, on nous empêche de passer par la porte, du coup on rachète la maison.
C'est très bon, c'est très vrai.
Genre, je crois que c'était ça, c'est un truc dans ce genre. Okay.
Bah, ils ont intérêt à vendre aujourd'hui, mais est-ce qu'ils trouveront à leur prix, voilà, parce qu'ils ont bien gagné de l'argent. Le seul problème, moi, qui reste. Pour moi, c'est que Ecclestone resterait à la direction exécutive,
oui.
Même s'il n'est plus propriétaire, parce qu'il vendrait ses parts, apparemment, les dernières
parties. Oui, il a dit que oui.
Voilà, mais ça n'empêche que...
Mais bien sûr. Attends, tu achètes un... Je me mets à la place de l'acheteur. Tu as acheté un business dont la valeur a explosé sous la direction d'une personne. Si tu peux négocier pour garder cette personne à la direction, tu le fais.
Évidemment.
Donc, on aimerait tous s'en débarrasser de Bernie parce qu'il nous saoule un peu, mais il faut reconnaître qu'il a amené la F1 à la notoriété qu'elle a et qu'il a fait fructifier un business de façon incroyable et que ce serait une ineptie de la part du moindre acheteur de pas le garder, si c'est possible.
Maintenant, attention, Ecclestone sans les parts sera entièrement sous la coupe du conseil d'administration et de.
Ça devient vraiment qu'un employé.
Voilà, sera un employé, donc il agira sur mandat des autres. Donc si les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait, le sens des autres.
Ah, on est bien d'accord. C'est la différence, c'est qu'effectivement, n'ayant plus de part, Ecclestone a moins de levier pour pousser des décisions de son initiative. Mais d'un autre côté, c'est parce que c'est les décisions dans le passé qu'il a pris que la F1 en est là. Donc tu as envie de dire, je rachète la F1, je te donne presque carte blanche. Par contre, il devrait vraiment répondre à quelqu'un d'autre, quoi. S'il est merdouillé.
Parce que, mettons, demain, le Qatar... alors, on dit Qatar, donc c'est QSI, donc c'est le fameux fonds d'investissement qui a racheté le PSG il y a 4 ans. Si le Qatar dit, maintenant, la F1, ça va être sur YouTube, il va y avoir des abonnements, il y aura des images de course et tout, bah, Ecclestone, il pourra rien dire. Quoi. Enfin, c'est plus lui qui décidera.
Mais lui, après, il dira, bah, ok, on fait comme ça. Ah, tu me diras, lui, c'est vrai qu'il est un vieux de la vieille qui veut négocier avec les télés.
D'un côté, progressif sur les différentes beIN Sport.
Oui, mais après, d'un autre côté, il va dire quand même au propriétaire de la F1, il a dit attendez, nous on a quand même des contrats en cours avec des chaînes de télé, tout ça, qui représentent très gros de nos revenus. Voilà, mais du coup, il va dire ok, il faut faire, mais il faut faire passer en progressive, c'est délicat. C'est quand même un businessman, Ecclestone. Il a beau dire qu'il connaît rien d'internet, il va vite se faire expliquer, il va vite.
Délicat, ce sera pas compliqué, hein. C'est une fois que les contrats sont terminés, hop, ça bascule dans les différents beIN Sports, là où il y a la chaîne.
Rappelons que le contrat de Canal s'arrête à la fin de la saison.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié.
Et que chez Canal+, le directeur des sports a changé officiellement. C'est bien Thierry Tulier qui était directeur des programmes de France 2.
Et ça a l'air de beaucoup bouger chez Canal en ce moment.
Oulala.
Beaucoup, beaucoup.
Vous aimez les guignols ? Changez de chaîne.
Profitez-en.
Qu'est-ce qui va se passer sur les guignols ?
A priori, c'est...
Ah, bien, Bolloré, l'actionnaire de référence, il a envie de regarder un peu dans les programmes de Canal.
Ouh.
Voilà. On verra. Donc, a priori, voilà, des rumeurs qui sont pas fondées, parce qu'a priori, ça pourrait être le meilleur moment pour CVC de revendre la F1. Passons à l'actu suivante, car n'oublions pas, la semaine dernière, il y a eu des essais privés. Hein. Alors, bon, rarement grand chose à parler d'essais privés. Hein. Il a beaucoup plu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont terminé leur journée à 20h. Hein,
chérie.
Mais en plus, comme quoi, Pirelli veut des essais pour tester les pneus pluie. Alors, c'était pour des nouveaux pneus pluie, donc on verra. Mais là, ils n'ont rien du tout mis à contribution pour tester les pneus pluie, là encore. Alors oui, on veut pas casser les voitures parce qu'il allait pleuvoir après, etc., etc., sur la fin de journée d'après et la journée suivante, mais quand même.
Sinon, ce qui s'est distingué un peu pendant ces essais, c'est quelques expérimentations aéro. Notamment, on a beaucoup parlé de ces petites ailettes devant les roues arrière de la Williams. Et certains anticipent d'ailleurs que ça pourrait faire partie des nouveaux règlements 2017. Que techniquement, sur le règlement actuel, c'est pas du tout autorisé.
Ah, c'est proscrit, oui. C'est-à-dire qu'il y a la petite ailette que tu dis effectivement devant les roues arrière qui est bon. Tu peux mettre de la carrosserie là, mais il faut qu'elle ait la section externe, elle ait un certain rayon, donc tu peux pas faire de.
On est loin de ce qu'on voit parfois dans certaines disciplines.
Oui, oui, mais ce qu'ils ont fait là, de toute façon, ça passe pas cette règle-là. Et puis il y avait sous le plancher, il y avait une petite réglette de genre 5 cm de hauteur qui là permet de fermer le soubassement et de mettre plus d'appui. Mais donc ça aussi c'est totalement proscrit actuellement. Donc soit effectivement comme tu l'as dit ils veulent tester des futures règles de 2017 avec un mandat du groupe stratégique, soit l'autre possibilité c'est qu'ils aient des pièces en amont sur la voiture, sur l'aileron avant ou ailleurs, qui répliquent un peu l'action de ces éléments. Et ils veulent en tester les effets sans avoir à fabriquer la pièce en question. Mais moi, bah, c'est vrai que c'est plus sur 2017 que ça se joue.
Toi, tu penses quand même qu'il y a du 2017 dans l'air. Hein.
Oui.
Après, sinon... je pense que si tu proposes aux écuries de mettre un petit aileron devant les roues arrière dès 2016, je te dis, ils trouveront le temps. Hein.
Sinon, on a eu plus original chez Force India. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est...
Ouais. De Nazo.
C'est double. C'est ah oui, fente.
C'est plus amusant, c'est Nazo.
Bah, c'est un vrai nez. Un nez avec des narines.
Avec deux narines, voilà. C'est difficile à expliquer de façon radiophonique à quoi ressemble ce truc.
Surtout qu'on n'a pas vu exactement comment c'est fait en interne et que selon comment c'est plus ou moins légal. Mais a priori, si le test, c'est qu'ils ont confiance. Sachant qu'en fait, le nez, pour simplifier, parce que je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, quand tu fais une coupe du nez de manière longitudinale, donc de l'avant vers l'arrière de la voiture, la coupe, elle doit être continue. C'est-à-dire que tu dois avoir qu'une seule ligne et ininterrompue. Quelle que soit de quelque manière que tu te décales à droite ou à gauche, quoi. Et donc ça fait un trou, mais si, selon comment c'est fait, tu peux avoir un truc qui est un trou, mais qui revienne parce qu'il y a un petit bout de carbone qui fait que ça passe, quoi.
Il n'y a pas un côté un peu Lotus de l'an dernier, mais inversé, dans le sens où tu as la partie du milieu donc qui doit rester quand même très solide pour le crash test, et donc c'est ces deux parties latérales qui, on va dire, sur une configuration d'une année précédente, ça aurait été un nez... on va dire juste plus restreint, et que là ils ont rejoint les deux sections une espèce d'ensemble.
C'est plus un nez effectivement comme l'année dernière, mais pas Lotus, mais genre ce qu'avait un peu tout le monde, un peu comme Williams ou Force India, un nez très élevé, mais remis légal avec les conditions aujourd'hui. Il y a une section qui, à 15 cm en amont du nez, du bout du nez, doit faire une certaine surface, être d'une certaine largeur, etc., etc., être d'un seul tenant. Voilà. Et c'est donc faire tracer tout ça autour de cette section pour que faire un nez un peu plus haut que les autres. Parce que là, le nez, il est très haut, finalement. Si t'enlèves le fait qu'il fait que les deux trucs de côté qui font qu'effectivement t'as des narines, oui, c'est un nez très haut comme l'année dernière.
Donc ça, a priori, ça pourrait potentiellement être vu.
A priori, ça fait partie de la version B, quoi.
La version B. Est toujours prévue pour la Belgique ?
Ah non, ça vient.
C'est dimanche là.
Ah
non,
oui, c'est vrai.
C'est ce week-end.
Non, je confondais avec les moteurs Ferrari.
Ah oui, sur
pour Sauber. C'est pour ça. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire hein, sur les essais privés. Ouais, on peut vous dire que les Mercedes ont été devant.
Oh my god.
Que Rosberg a fait 110 tours. Hein, c'était toujours deux devant Gutiérrez qui a aussi fait 110 tours. Ils ont quand même pas mal roulé. Hein. Je vois Whitman pour Toro Rosso, 158 tours. Il y a eu de la pluie, mais ça a quand même été bien productif.
C'est là où
il y a
c'est...
eu de la casse par contre chez Ferrari. Le petit Fuoco, Antonio Fuoco, qui vient de la F3, comme par hasard, s'est crashé dans le virage 1.
Il n'avait pas cassé grand chose, je crois, non? Il avait cassé beaucoup?
Demi-teint, je crois, quand même.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas.
Non, mais bon.
Bah, c'est vrai que ce week-end-là, en pièces neuves, il ne devait pas en avoir beaucoup chez Ferrari, vu qu'ils en avaient cassé une déjà.
Oui.
Mais moi, ce que je trouve dommage, tu vois, ils font beaucoup de tours et puis ils sont en essai. Je ne sais pas si c'était accessible au public, mais quand il y a un vendredi, on pourrait rouler à ces niveaux-là pour n'importe quel grand prix, même s'il n'y a pas d'essai le lundi et le mardi, ou le mardi et mercredi, quand même, en l'occurrence. On pourrait rouler vraiment beaucoup à ces vitesses-là, mais le problème, c'est qu'on a des limitations sur les moteurs en termes de kilométrage à faire, et du coup, bah, on peut pas rouler longtemps et développer une voiture le vendredi, alors que ce serait pourtant une bonne idée de dire voilà, on roule en essai libre et les moteurs ne sont pas limités le vendredi, et puis comme ça ferait rouler les équipes qui ont pas beaucoup de qui ont beaucoup de problèmes, je pense notamment à Honda, à régler leurs problèmes, voilà. Bah, je trouve ça aberrant, mais
ouais, mais le vendredi tu dois caser les formules de promotion aussi, enfin,
c'est... oui je sais mais ils font 20 tours le matin et 20 tours l'après-midi. Ouais, je sais pas.
Non, mais c'est une piste intéressante, effectivement, de limiter. Les 4 moteurs, tu les limites sur le samedi et le dimanche.
Voilà, et puis comme ça, tu peux faire rouler un peu plus ceux qui ont besoin de rouler. Ils sont moteurs libres, hein, au sens nombre de moteurs. Ils cassent. Bon, après, évidemment, quand ils cassent, un moteur tel qu'ils sont aujourd'hui, c'est difficile de changer le moteur en 20 minutes. Hein.
Ouais. Mais au moins, effectivement, je te garantis que les séances du vendredi, ils tourneraient de la première seconde jusqu'à la dernière.
Mais voilà.
Mais qui va payer ces moteurs en plus?
De toute façon, les moteurs qui cassent, ils sont payés.
Oui, mais tu veux faire encore plus de roulage. Donc tu veux rajouter des moteurs en plus pour
mais
les
tu vas en rajouter combien?
Je sais pas, c'est vous qui voulez en rajouter. Moi,
ce que je veux dire, c'est si tu limites à 4 de moteurs le vendredi, tu crois que sur la saison, ça, le samedi et dimanche.
Pour faire les vendredis, ça nous fait au moins un ou deux moteurs de plus pour faire tout le kilométrage du vendredi, surtout si vous voulez étendre la durée des essais.
Ah non, moi je parle pas d'étendre la durée des essais le vendredi. Hein. Mais
moi, ce que je crois, c'est que le coût d'un moteur n'est pas du tout dans le coût de fabrication. L'usinage des pièces et tout ça, je trouve. C'est dans la R&D, dans toutes les équipes qui conçoivent le moteur. La production en elle-même, c'est pas grand-chose, même si. Non, honnêtement,
mais
je crois que c'est pas grand-chose.
Mais tu veux faire plus de roulage, donc ça va faire plus de données, donc plus de R&D, donc plus de d'argent. C'est. Plus tu vas rouler, plus tu vas avoir de données, donc tu vas vouloir faire de changements sur les moteurs, donc plus tu vas encore une fois dépenser de l'argent.
C'est vrai.
Ça, c'est un cercle vicieux.
Oui, c'est vrai.
Donc évidemment, moi je serais plutôt d'avis d'avoir plutôt de. Parce que maintenant, on fait rouler une voiture le mardi et le mercredi. Déjà, pourquoi pas le lundi? Parce que là, ça fait rester tout le monde 3 jours et demi de plus sur place. Je trouve ça un peu limite. Moi, je ferais rouler les deux voitures le lundi. Comme ça, niveau frais d'hôtel, de déplacement et tout ça, enfin, t'es beaucoup plus court avec avec autant de données, quoi. Parce que tu fais rouler les deux voitures en même temps. Tu peux faire des tests comparatifs que là, tu peux pas faire.
Oui, et que de toute façon, t'as l'équipe qui était là, t'as l'équipe pour les deux voitures qui était là de toute façon pour la course, donc.
Ils sont là.
Donc ils sont là.
On en fait pas assez. On fait de moins en moins d'essais comme ça. Et l'année prochaine, en plus, en début de saison, il y aura plus que 8 jours d'essais privés, donc.
Mais
pré-saison.
Ça va être pas radical, mais qu'ils les suppriment carrément les essais, puisque apparemment ça les dérange d'en faire.
En simulateur.
Ouais, voilà, non mais je veux dire, à un moment donné, en dessous d'un certain nombre de jours par an d'essai, ça sert même plus à rien d'en avoir, quoi. C'est plus frustrant qu'autre chose. Je les mets tous sur un pied d'égalité, il n'y a plus d'essai en dehors des week-ends. Plus de roulage en dehors des week-ends, point barre. Ça en ferait des situations cocasses.
On devrait même faire, tu vois, plus de soufflerie, plus de CFD, on fait ça sur iRacing et puis c'est bon. Voilà.
Championnat
du monde virtuel. Tu vois, ça coûte rien, mais c'est bien.
Non, mais c'est, tu ressens la table à tracer, ça coûte rien, une table à tracer. Ça consomme pas d'électricité, ça consomme un peu de papier. Acheter que nouer serait fort.
Je n'aime pas ton ironie, Gus Gus.
Oh.
Ah, mais c'est ironique?
Oui, c'est ironique, évidemment.
J'ai un finesse.
Mais la F1, c'est, ça doit être une course, mais on doit aussi pouvoir développer les voitures. Quand les gens sont en retard, ils doivent pouvoir se rattraper pour pouvoir offrir un spectacle. Même si je sais qu'on n'aime pas que je dise que la F1 est un spectacle, ça reste un spectacle parce que c'est parce qu'il y a ce spectacle que les gens payent, que les télévisions payent. Surtout d'ailleurs, donc il faut pas oublier que des F1 où il y en a une qui domine à une seconde de la deuxième équipe, je parle même pas des dernières équipes, c'est sans doute aussi un problème pour CBC. On en revient au sujet d'avant précédent, mais il faut pas oublier ça. Donc je sais pas quels seront les moyens pour rendre la F1 plus attractive, mais rouler comme tu dis le lundi, moi je trouve que ce serait une bonne idée aussi. Mais c'est pareil, on utilise quel moteur, enfin voilà.
Mais le problème c'est qu'on a Gus, il a une proposition extrêmement sensée et logique. Le problème c'est qu'on parle des décideurs de la F1 qui ont rien de sensé et de logique dans les décisions qu'ils prennent. C'est ça qui est aberrant. C'est qu'à un moment donné, on est passé d'une période où les écuries faisaient des dizaines de milliers de kilomètres de roulage dans l'année. Mais c'était hallucinant, les kilomètres, tout ce qu'ils faisaient en essai. Alors on a réduit ça à quelques jours d'essai dans l'année.
À la fin, l'argent qui était dépensé, il est toujours dépensé, mais dans les simulateurs, dans les simulations. Donc on finit de toute façon par dépenser l'argent qu'on a.
Mais je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est passé d'un extrême très élevé à presque un extrême tout petit. Il s'est pas dit on veut réduire le budget, mais ok, on va limiter à 20 000 km de roulage par an. Déjà, de diviser par 2 ou 4 les kilométrages en essai, mais déjà ça aurait réduit vachement les coûts. Et après peut-être y aller progressivement. Et à un moment donné, ils se sont dit bon ben on arrive à un seuil quand même si en dessous duquel on peut plus trop innover, on peut plus rattraper le retard sur la concurrence. Peut-être qu'ils auraient pu ajuster. Non, on est passé d'un extrême à l'autre, et ce dernier extrême, on est encore en train de le réduire, de le s'aborder, alors qu'il y a des façons tout à fait logiques, à moindre frais, de réaugmenter un peu la quantité des essais en ajoutant une journée après les week-ends de Grand Prix.
Pour ajouter ce que tu dis, que je crois moi, c'est que la F1 jusqu'à présent était un petit peu une manière archaïque de dire voilà, ça coûte cher parce qu'on fait un kilomètre de F1 coûte tant. Et donc, parce qu'il y a des équipes d'essai, il y a plein de choses. Mais à la fin, quand tu regardes bien, aujourd'hui, les équipes roulent beaucoup moins en essai aujourd'hui, mais roulent beaucoup plus en simulation. Et il y a aussi des équipes à gérer les centrales de simulation, parce que c'est pas une PlayStation hein, sur les grosses équipes. Hein, je crois que Ferrari a son troisième simulateur. Red Bull, je pense qu'ils n'ont pas dû le changer. McLaren, ils sont à leur deuxième. Lotus, ça doit être leur deuxième, même si c'est le premier, parce qu'avant c'était une PlayStation. C'est des grosses équipes qui restent derrière pour pouvoir faire tourner tout ça. Et ce qui coûte en réalité à la F1 de rouler, c'est pas le nombre de kilomètres que tu fais avec, et c'est le nombre de personnes qui sont là pour faire tourner ces voitures. Une saison, c'est on va dire 150 jours de course. Non, pas 100, ça fait 3 fois 20, 120 jours de course. Ça fait 60 jours de course, et il y a derrière tout ce qui est R&D, tout ce qui est équipe à l'usine, parce que s'il y a le droit, je crois que c'est 50 personnes qui ont le droit sur place, il y a peut-être le double chez Mercedes à l'usine, et ils sont reliés avec des tuyaux de réseau très importants pour pouvoir être comme s'ils étaient sur le circuit, mais à l'usine.
Le double, t'es léger.
Pour moi, ils sont 1000 chez Mercedes. Ce que j'ai entendu, c'était qu'ils étaient 1000.
Je pense qu'ils sont plus d'une centaine, en tout cas à l'usine.
Mais pour gérer la course, ils doivent pas être 1000 en tout pour gérer la course, quoi.
Pas 1000, mais sans doute plus de 100. Différents niveaux, mais bon.
Et ces gens-là, ils sont. Ils coûtent de l'argent, je veux dire. Et c'est ça qui, pour moi, c'est le nerf du problème, il est là. C'est-à-dire que les coûts ont explosé parce que les équipes ont continué à avoir des effectifs pléthoriques. Donc c'est ça, le problème, il est juste là. Hein. C'est pas le fait que les F1 roulent moins. Les F1, si elles roulent moins, bah, évidemment, en théorie, elles devraient coûter moins. Mais si tu mets le même nombre de bonhommes à les faire tourner, elles coûteront le même prix. Parce que la F1, une fois qu'elle est produite... Quoi, tu peux pas?
C'est impossible. Bah, même si tu dis, mettons, tu dis on limite à 300 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir des sociétés externes, des prestataires qui vont se créer. Ça va être des sous-écuries de F1 qui vont se faire. Donc ils vont juste délocaliser plus. Enfin, c'est pareil. Enfin, ils vont
avoir... j'ai un truc qui marcherait très bien. C'est que tu isoles les équipes de l'usine. C'est-à-dire que les liens VPN qui sont montés entre Mercedes et son équipe ou entre Ferrari et son équipe, les coupes, les interdis.
Mais tu contrôles ça comment?
Ah, c'est facile, hein, c'est du réseau. Hein.
Oui, mais le réseau, tu peux faire passer du satellite, tu peux faire ça, tu peux créer des communications clandestines.
Enfin, c'est... Oui, mais ça se surveille, ça, c'est pas. C'est assez simple, on va dire.
Demande à René ça.
À la fin, ça sort d'un serveur. Le serveur, il est relié à quelque chose qui émet ou qui, que ce soit en réseau filaire ou en réseau satellite, tu dis non, c'est interdit. Ils sont chopés, ils sont exclus. Qui va prendre le risque?
Bah, ceux qui sont sûrs qu'ils seront pas chopés.
Voilà.
Donc les mêmes. Enfin, ce sera pas les petites écuries. Enfin...
Ah, c'est sûr, ce sera pas les petites écuries, mais je pense pas que ce soit les grosses écuries qui prendront le risque aussi. Moi, je me souviens, enfin, on se souvient tous de d'annulation de points pour des équipes qui avaient triché, ou même de saison où il y avait pas une McLaren quand ils avaient eu le Spygate là, ils avaient perdu tous les points de la saison. Donc voilà, je pense que des techniques, des choix peuvent être faits pour réduire le nombre de personnes qui sont à gérer une équipe de F1. Mais il faut le faire intelligemment. Voilà, mais on s'éloigne peut-être du sujet. Mais...
Vous parlez des décisions à prendre. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, 1er juillet, il y a eu une réunion du groupe stratégique avec qualifié...
Avec Max Mosley, il paraît.
Oui, avec Max Mosley, qualifié de très importante. Hein. Alors, à l'heure où on enregistre, on n'a pas eu les échos de ce qu'avait pu, je vais pas dire décider, mais en tout cas annoncer. Mais en tout cas, avant la réunion, il a été évoqué que ça pourrait être des choses donc pour 2016, notamment en fait des choses qui seraient pas sur, on va dire la réglementation, on va dire carrosserie, enfin des choses en fait qu'on pourrait modifier, mais qui ne se verraient pas directement. Hein. Et notamment la possibilité de supprimer les aides au pilotage, notamment celles du départ.
Alors, j'y ai pensé ça aussi. Et je me suis dit, effectivement, alors bon, les aides au pilotage, tout ça, blabla, on pourrait tout à fait faire, on pourrait dire c'est interdit et on ferait comme ça a été fait, les pilotes feraient les choses de plus en plus manuellement et ce serait eux à faire ça sur leur volant.
Il y a déjà eu des interdictions dans le passé.
Voilà, bon.
Mais réglementairement, c'est interdit.
Oui.
C'est d'ailleurs sur ça qu'on s'est basé pour diminuer les conversations radio, pour interdire certains trucs. Trucs sur lesquels on est complètement revenu parce qu'on a vu au Canada que finalement, quand on dit à Lewis Hamilton que Rosberg économise ceci ou cela, bon, ça passe.
D'ailleurs, apparemment, il serait possible que ça ait été dans la discussion de la réunion d'aujourd'hui.
Oui, mais bon, ça sera bien comment ça va se finir. Oui. Même si ça passe, voilà, ce sera un sujet à grande interprétation et ça fera rien. Tant que finalement, on fera pas un truc qui serait pourtant tout bête. Comme on est dans un prestataire de technique qui fournit la télémétrie, mettons la télémétrie bidirectionnelle encadrée, comme ça les ingénieurs s'occupent de la voiture, le pilote s'occupe de la piloter.
Et moi j'ai pensé encore un petit peu plus loin, Gus, c'est-à-dire que entre le moment où la voiture part des... on va dire par des stands. Alors je sais pas comment on pourrait le contrôler, mais
ça te rappelle beaucoup de choses que tu nous dis.
Non mais attends, on va faire un exemple simple, on pourra extrapoler après. Il y a le warm-up lap, comme on dit, où les voitures partent pour faire le dernier tour et se repositionner sur la grille. À cet endroit-là, on interdit, on ferme la télémétrie bidirectionnelle. On ferme tous les canaux.
Elle n'est pas bien
bidirectionnelle. Non, elle est directionnelle, c'est-à-dire que les ingénieurs visualisent en en temps réel bah, ce qu'il y a, les paramètres qui sont chauds, ton frein est un petit peu trop froid sur l'arrière droit, tiens. Ça, on supprime tout ça. Et on le supprime jusqu'à ce qu'ils passent la ligne de départ. Après, une fois qu'ils ont passé la ligne de départ, la télémétrie revient pour les ingénieurs qui sont sur le truc. Tu l'interdis donc, en gros, tu l'interdis un tour. Le tour qui compte, enfin qui leur sert à chauffer les pneus. Ils n'auront pas les informations d'adhérence d'embrayage, enfin pour trouver le calage de l'embrayage. Ils n'auront rien de tout ça et ils n'auront pas d'éléments. Ils devront faire avec leur.
Oui, enfin sur un tour, ils sont pas non plus débiles. Ils peuvent donner des indications aux pilotes avant qu'ils rentrent dans le baquet.
C'est-à-dire que les pilotes auront les infos sur le volant. C'est déplacer le problème.
Non. Justement, il faut que ce soit la question qui est sous-jacente à ça, c'est on veut que ce soit le pilote qui pilote. C'est ce qui est dit en fait, c'est-à-dire que on trouve que l'ingénierie s'occupe un peu trop. Si on veut aller vraiment très loin, on pourrait mettre n'importe qui à l'intérieur de la voiture.
On dit que l'ingénierie s'occupe trop dès le départ, mais on trouve que visiblement il y a trop d'aide au pilotage, mais il y a quand même des gens qui foirent leur départ.
De moins en moins, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais.
C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus vraiment des aides au pilotage. C'est des aides à la.
À la conduite.
Non. Des aides à l'amélioration des performances de la voiture. Mais derrière, le pilote, s'il appuie trop fort sur l'accélérateur, on l'a vu avec Raikkonen, il se barre. Donc, c'est de l'optimisation de la performance de la voiture. Normalement, c'est pas le boulot du pilote. Et pourquoi c'est pas le boulot du pilote? Juste parce qu'il n'y a pas la télémétrie bidirectionnelle. À l'époque, on pouvait régler à distance les paramètres du moteur, la cartographie, etc. etc. Et aujourd'hui, je sais plus qui a dit ça, je sais. Mais il y a un pilote qui a dit aujourd'hui, 20% du temps, je pilote la voiture. Et 80... ouais, c'est lui. 20% du temps, je pilote la voiture et 80% du temps, je la règle. Donc, c'est...
Les pilotes passent beaucoup trop de temps à toucher à des boutons et des manettes sur leur volant.
Et à écouter les ingénieurs leur dire oui, alors là, voilà. Voilà, arrêtons.
Et en augmentant la puissance et la vitesse des voitures comme on veut le faire, c'est pas prudent.
Et surtout qu'en plus, l'unité la centrale électronique de la voiture est standardisée déjà. Donc c'est pas un élément à introduire.
Et le contrat arrive à la fin de l'année aussi. S'arrête à la fin de l'année avec McLaren, a priori. Ah. Normalement, je me demande s'ils sont pas obligés de faire un appel d'offres, mais a priori, c'est le bon moment. Peut-être qu'il y a une reconduction.
C'est vraiment le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour CVC de vendre.
Non, mais c'est pas difficile à vendre aux gens qui, aux fans et aux gens qui regardent la F1 en disant voilà, maintenant on va réintroduire la télémétrie bidirectionnelle. On va juste autoriser dans le sens stand voiture les réglages que le pilote devait faire. Et qui le déconcentrait de son pilotage. Voilà ce qu'on va faire. Comme ça, le pilote sera 100% sur la conduite.
Ouais, non, je suis
parce
pas
que je pense que les gens, ils vont. Ouais, comment tu ça peux.
C'est difficile à contrôler, en fait.
Mais c'est pas difficile.
C'est possible.
C'est pas difficile, puisque la centrale électronique de la voiture est standardisée sur toutes les.
Les changements de cartographie, c'est peut-être le stand qui peut s'en occuper. Par contre, c'est peut-être pas au stand de décider quand les vitesses passent.
Non, et bien tu limites dans le bloc électronique que tu empêches que ça puisse influer sur les changements de rapport.
Parce qu'on a eu ça par le passé, hein.
Oui.
Les vitesses qui passaient toutes seules, hein.
Oui.
Ouais, mais c'était des boîtes automatiques.
Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Non mais oui. Voilà. C'est tout. Là, comme d'habitude, tout dépend où on met le curseur.
Est-ce qu'on peut
changer la cartographie? Peut-être que ça peut être fait directement du stand. Ouais.
Non mais voilà, on peut limiter facilement parce qu'il y a un seul boîtier pour tout le monde et que voilà. Aujourd'hui, alors qu'il est, la télémétrie ne fait pas partie. Voilà, je me rappelle de ce que j'avais dit. Ne fait pas partie du truc commun dans l'électronique. Par contre, pour le prochain appel d'offres, c'était le cas de grouper. Ça c'est dans les changements de règlement.
Ça pourrait être pas mal.
Mais c'est prévu parce que c'est dans le changement de règlement pour 2016. Donc c'est déjà voté a priori. Il faut que je retrouve ça, mais a priori. Oui, voilà, c'est là. Hop.
Si ça peut nous éviter les messages radio, oui. Mets-toi en position couscous 28.
Ouais.
Voilà, pour l'année prochaine, article 8.5.1 du règlement technique, toutes les voitures doivent être sur toutes les voitures, on doit monter un système de télémétrie qui a été fabriqué par un fournisseur désigné par la FIA selon les spécifications de la FIA. Donc voilà. Bon, alors, dans ce règlement, oui, c'est le boîtier unique. Ce sera probablement McLaren qui aura le contrat de toute façon. Par contre, dans ce règlement, à l'heure qu'il est, il est écrit 8.5.3. La télémétrie de la du stand vers la voiture est interdite. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Mais je trouve que c'est bien que ce soit pas à l'ordre du jour. Pour moi, on va encore trop loin. Si tu laisses la possibilité à l'ingénierie de régler les maps, ça veut dire que le pilote ne va pas gérer les maps. On va encore entendre des commentateurs comme Villeneuve ou Febro ou tous les autres qui en discutent.
Ah.
C'est pas le pilote qui décide de sa puissance. Gna gna gna. Voilà.
Mais de toute façon, il la décide pilote, pas puisqu'on lui impose. Il n'est pas compétent
pas
pour
compétent,
ça.
Compétent, il n'est pas ingénieur.
Il n'a pas les données.
On lui fait juste dire. On lui dit, mets le bouton sur ça.
Et il le fait de toute façon.
Sur ça.
Ouais, mais j'ai plus l'impression qu'on lui dit ça par rapport à des histoires de gestion. Plus que pour des histoires de puissance.
Mais la différence. Non, mais ce que tu. Non, mais il n'y a aucune différence. Hein. Non, mais Jacquet, à un moment donné, que le stand dise au pilote, tu mets le bouton sur cette position et que le pilote, dans tous les cas, il va obéir parce qu'il n'a pas les données et il fait confiance en son stand, ou que ce soit le stand qui appuie sur un bouton pour que changer la cartographie, pas toute la cartographie, mais puisque tu as plusieurs cartographies préprogrammées, de dire je mets la cartographie 5. Ben, à un moment donné, que ce soit le pilote qui le fasse sur son bouton via un message radio ou que ce soit directement le stand qui le fasse, quelle est la différence? Il y en a aucune. La différence, c'est que le pilote n'est pas perturbé dans la conduite de la voiture. C'est tout.
Si, parce que au moment où ils vont mettre les choses en place, alors il y a plusieurs niveaux qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent tout à fait mettre en freinage. Ils peuvent mettre la cartographie 5. Quand il commence à lâcher le frein, il passe à la 3. Et quand il remet les gaz, il passe à la 4. Et tout ça de manière automatisée. Donc, oui.
Non, dans ce cas, tu fais des limitations sur les cartographies.
Si tu dis que les stands sont bidirectionnels, il pourra y avoir.
Déjà, tu peux limiter le nombre de cartographies.
Parce que déjà, il y a déjà des règlements. On a appris ça après le Canada où tu ne peux pas changer de cartographie pendant 90 secondes après un arrêt au stand et après le départ. Donc, ce genre de règle peut être reconduit pour pas qu'on change de cartographie tous les 3 dixièmes de seconde.
On peut limiter le nombre de cartographies, déjà dire oui vous aurez
c'est
droit
déjà
à...
le cas.
C'est déjà le cas, limiter les changements, on peut dire vous aurez droit à un changement de cartographie par tour, on va dire. Et le pilote doit être prévenu.
Oui,
il y a un changement. Si au tour suivant vous devez changer la cartographie, vous dites au tour suivant attention, tu passes sur telle cartographie.
Donc tu auras les mêmes messages radio pour dire, au lieu de dire change la cartographie, il y aura un autre message qui dira nous avons changé la cartographie. Ça reviendra au
même.
Non,
on va changer.
Mais non,
la cartographie. Derrière, le pilote, il n'a pas à agir, il continue à regarder la route et à freiner comme il faut.
Tu l'annonces avant. L'annonce avant, pas après, hein, qu'il soit pas surpris. Hein. L'annonce avant, obligatoirement.
Ouais,
et deuxièmement, en effet, la différence, c'est que là, au moins, s'il a 320, il a toujours les mains sur le volant et il est pas en train de bidouiller sur son volant.
Après, moi, je serais d'avis qu'on aille encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, une F1 s'est bardée de capteurs. On parle de 200, 300, je sais plus. J'ai pas le vrai nombre en tête. Tu limites à 40 capteurs, voilà, 40, 50. Tu diminues parce que maintenant, on sait quelle température il fait dans la boîte de vie. Vitesse, on sait quelle est la pression d'huile, etc., etc. On s'en sort plus. Au bout d'un moment aussi, à avoir autant d'informations à disposition, c'est normal aussi qu'on puisse tout régler, tout savoir.
Alors,
tout
non,
modifier.
Alors là, vous sortez de la F1 complètement, là, les gars. La F1, c'est aussi parce que tu peux régler tout plein de choses, mais tu as besoin d'avoir des éléments pour décider comment régler. Donc, tu as besoin d'avoir des capteurs. Mettre 40 paramètres, hein, tu te rends pas compte, c'est très très peu. C'est vraiment très peu.
Et alors ? Et comment on faisait dans les années 60, Jackie, avant qu'il y ait tous ces capteurs ?
On faisait plus solide,
on se débrouillait pour faire du
on
matériel
se crachait,
solide.
On se crachait, on s'envolait, on faisait tout ça.
Ouais,
mais il reste à quel rapport ?
Ah si, c'est parce qu'il y a
tu
eu...
Tu cassais un moteur, tu cassais une boîte, mais si tu cassais pas des suspensions, parce qu'aujourd'hui on sait toujours pas prévoir ça, on se crachait, mais à l'époque on se crachait aussi parce que et on se tuait parce que les conditions de sécurité étaient pas là. Aujourd'hui les conditions de sécurité ne te garantissent pas, mais font en sorte que si tu casses un moteur, tu casses un moteur. Si tu casses Bah, je suis désolé, on n'est plus dans les années 60. Maintenant, si on enlève des capteurs, bah, on cassera des moteurs, on cassera des boîtes, mais on tuera personne, hein, pardon.
C'est pas les capteurs là qui me font dire que c'est...
Non, enfin, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit Gugu, c'est que c'est une piste de réflexion. Il dit pas il faut absolument faire ça, mais c'est des pistes à explorer, effectivement. Alors bien sûr, c'est des pistes que aucune écurie voudrait pour, j'imagine, mais effectivement,
en tant que fan de F1, je pense que vous l'êtes aussi, c'est pas ma vision parce que moi je me souviens que quand je jouais sur des jeux de course et que il y avait je pouvais rouler je faire 3 tours, je donne l'exemple de 3 tours, et après j'allais sur les acquisitions de données et je cherchais où est-ce que je pouvais gagner du temps.
Mais j'ai jamais parlé de les interdire.
Non, t'as parlé d'enlever des capteurs, mais ça veut dire
de les réduire, hein.
Ouais, mais 40 c'était très très peu, hein.
Non, mais il a dit de lancer ce chiffre comme ça, au lieu d'être à 300 on peut descendre à 150.
Tu crois franchement que le pilote qui descend
300, ça me paraît beaucoup trop. Au bout d'un moment, si tu regardes dans l'arrière des stands, il y a 8, 10, 15 personnes qui regardent des écrans comme des comme des abrutis pendant une course au lieu de voir la course. C'est quand même. Je pense qu'on est un peu trop loin aussi.
Après, rationaliser ne veut pas dire en enlever là où c'est indispensable.
Je pense que ceux qui regardent les écrans, ce sont des paramètres, on va dire, les paramètres vitaux qui ont besoin d'être vus en temps réel. Et c'est ce paramètre-là, donc il doit y en avoir 40.
Mais vitaux, pourquoi ? Vitaux pour pas que ça casse.
Pas que ça casse, oui.
Eh ben, ça cassera, c'est tout.
Et je pense que les paramètres, c'est de l'informatique, hein, les paramètres qui sont... ils sont supervisés en temps réel et il n'y a pas besoin de quelqu'un, il y a des automates derrière qui jouent et ils doivent envoyer des pop-up comme quoi il y a tel paramètre qui dépasse le seuil et avec ce paramètre là ils vont regarder voilà. Mais peut-être qu'en enlevant des paramètres effectivement ça cassera plus, quoique j'ai du mal à y croire.
Ils s'adapteront.
Ouais, parce que je pense qu'ils s'adapteront.
À un moment, ils s'adapteront.
Mais c'est ça. Si tu dis la règle, c'est ça, ils feront avec. D'une façon ou une autre, ils s'adapteront. Le problème, pour revenir quand même, c'est que la commission F1, c'est... Ils n'arrivent pas à... Il n'y a pas de quelqu'un qui dit bah, c'est comme ça. Ils essayent tous à discuter, il y a des compromis, machin. Les écuries, forcément, elles jouent chacune pour elles. Et le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas un truc. Horner, il a dit pas mal de bêtises ces derniers temps, sauf ça. Sauf, il a dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'impose et on s'adaptera. On fera qu'on fasse chacun des concessions, mais au moins, voilà, il y aura des règles.
Justement,
voilà, c'était l'actu suivante, hein, tu l'as évoqué, voilà, c'est une idée d'Horner, voilà, vous le voyez, hein, faire des règlements c'est compliqué, hein, il suffit de voir ne serait-ce que la discussion qu'on a eue, hein, et donc l'idée d'Horner, c'est peut-être que telle l'Union Européenne qui fait appel au FMI pour sauver la Grèce, bon, c'est pas pour dire que c'est une opinion personnelle sur l'idée, attention, hein. Horner a dit, bah écoutez, si au lieu de se disputer tout le temps, on faisait appel à un consultant indépendant qui s'y connaît en F1 et qui, bah voilà, pourrait concevoir les nouveaux règlements et les soumettre, bah justement, au groupe stratégique et à tout le barda habituel, avoir quelqu'un d'extérieur qui s'y connaît, qui n'aurait entre guillemets pas d'intérêt. Non, ça.
Mais c'est-à-dire que Horner est fantastique sur ces histoires parce que il croit que son idée est révolutionnaire. T'as l'impression quand tu l'entends. Alors que les moteurs 2014, ça a été conçu à peu près comme ça parce que évidemment les motoristes actuels étaient engagés. Il y avait au départ un consultant externe qui était Gilles Simon, qui avait travaillé chez Ferrari et qui aujourd'hui a priori est chez Honda, même si c'est pas certain, mais voilà, des consultants externes il y en a eu de tout temps en F1. A priori, logiquement, normalement c'est le rôle de la FIA soit d'être elle-même ce consultant via Charlie Whiting ou n'importe qui, soit via effectivement quelqu'un comme Ross Brawn qui aujourd'hui
parce qu'il faut le dire, hein, le nom, de toute façon Ross Brawn c'est un super héros Marvel. C'est-à-dire que même quand il disparaît, vous savez que dans 6 mois, son nom va réapparaître.
Il aura sa série sur TF1 bientôt.
pas sur l'énergie 12.
Parce que bien évidemment, le nom qui est sorti, c'est ah, Rose Brown, il serait parfait pour ça. Mais laissez-le pêcher. Alors, dans le cas des règlements, ça pourrait être intéressant.
Bah, ça devrait être la façon dont c'est fait, quoi. Il y a quelqu'un qui fait le règlement, c'est la FIA, et voilà. C'est... Ils font appel à qui ils veulent, s'il le faut, hors voilà, conflit d'intérêts avec une écurie ou quelque chose comme ça, mais voilà, ça c'est...
Et tu vois, c'est compliqué, parce que quelqu'un comme Rose Brown, on pourrait dire, oui, enfin, il est passé chez Ferrari, il est quand même passé chez Mercedes...
Oui, enfin, il est passé chez... si tu prends le plateau actuel, il est passé chez 3 écuries, donc au bout d'un moment... Il est passé chez Lotus ex Benetton, il est passé voilà, il est passé un peu partout finalement.
Mais est-ce que c'est un vrai directeur technique au sens capable de pondre un règlement? J'en suis pas sûr.
Oui.
En tout cas, moi c'est plutôt le terme de consultant que j'ai vu.
En tout cas, Rose Brown, a priori, il a fait partie du fameux Overtaking Working Group qui a pondu le règlement 2009. Il l'a déjà fait quoi, j'imagine. Parce qu'à l'époque, on l'avait accusé d'être justement dans ce panel, puis d'avoir prévu le double diffuseur un peu pour laisser...
Ah oui, c'est vrai, oui.
Etc, etc.
C'est quelqu'un qui connaît la F1, c'est sûr. C'est quelqu'un qui sait quels sont les moyens des équipes, des grosses équipes de F1 pour trouver les failles dans un règlement.
Après, est-ce qu'il y a d'autres noms aussi?
Gary Anderson. Mmh. Même si, bon, c'est moins prestigieux tout d'un coup.
Pour la partie moteur, s'il faut appeler quelqu'un, j'appellerai Bernard Dudo, moi.
Oh, il doit être tout jeune.
Bon, je veux pas dire qu'il est sénile, là.
Il n'y a pas Denis Chevrier qui travaille chez la FIA aussi? J'avais vu son nom il n'y a pas longtemps. Il était chez Renault. Moteur, mais en tout cas, il était chez Renault.
Il a été chez RMC aussi. Il parlait un peu chez Moteur. Ça va faire hurler les femmes. C'est juste pour ça. Les gens de Toyota, il peut y avoir des... Ils sont tous en course ou ailleurs aujourd'hui, donc...
Non mais de toute façon, des gens, on peut en trouver. Le problème, c'est de changer les institutions qui sont pourries à la base.
Le problème, il n'est pas dans la production de règlements, il est dans la prise de décision sur ces règlements. Aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui dans le paysage de la F1, c'est il faut un consensus pour que les règlements changent. Il n'y a pas de consensus. Donc les règlements ne changent pas ou sont compliqués à changer. À la dernière émission, que je vous invite à écouter avec Thibault Larue, il était halluciné d'avoir 65 places de pénalité. Pour un des pilotes, je crois que c'était Jensen qui avait ça, 65 places de pénalité. C'est hallucinant d'avoir autant de places de pénalité. Pourtant, c'est comme ça. Je suis d'accord avec lui, un moteur qui est cassé, il est cassé.
Alors.
Donc, il est déjà pénalisé. Donc, est-ce qu'il faut un consensus? Est-ce qu'il faut le changer tout de suite, ce règlement-là? Et aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre ces décisions. Alors qu'on sent bien que tout le monde, les champions, qui ont parlé dans la presse ces derniers jours, ils ont tous dit, les ex-champions, je veux dire, les ex-pilotes, ils ont tous dit, les pénalités, c'est ridicule, quoi. Il y a un moment, on marche sur la tête. Et on n'est pas capable de le changer. Donc le problème, il est là, c'est de décider et qui décide. Aujourd'hui, la F1, à la tête de la F1, il y a Bernie, qui est un dictateur, on le sait, mais il n'a pas ce pouvoir-là aujourd'hui de faire seul, de prendre une décision. Il faut qu'il y ait Jean-Todd avec lui pour pouvoir faire qu'il puisse à deux.
Il faut qu'il soit d'accord.
Il faut qu'il soit d'accord tous les deux. Mais Jean-Todd, lui, il voudra le consensus. Donc il n'aura jamais l'accord de Jean-Todd pour faire un truc de dictateur. Et voilà, et on se retrouve avec une situation où les équipes ont suffisamment de pouvoir aujourd'hui pour, enfin, une équipe en l'occurrence, parce que c'est normal. Je veux dire une équipe de manière générale, mais c'est l'équipe qui domine a le pouvoir de bloquer les règlements. Alors là, depuis 2 ans, c'est Mercedes, mais ça pourrait être Ferrari l'année prochaine. Et si c'est Ferrari qui fait une super voiture l'année prochaine, elle bloquera les règlements également. Donc
L'équipe qui domine a le pouvoir de bloquer pour l'année suivante, mais pas pour 2017. Là, Mercedes ne peut pas s'opposer, mettre un veto de fait sur des changements de règlement sur 2017.
Donc
effectivement, ça encourage de continuer une domination d'année en année, mais pas sur les 2 ans qui suivent, quoi.
Non, mais il y a plein de problèmes qui arrivent. C'est que le moteur fait que, comme
Mercedes a beaucoup d'avance au niveau du moteur et que la FIA ne veut pas le changer parce que ça pourrait se dédire, on se retrouve avec une équipe qui garde son avance et que avec lesquelles les autres ne peuvent pas combattre puisqu'ils n'arrivent pas à rattraper l'avance que Mercedes a sur le moteur. Donc on arrive à une situation un petit peu compliquée où pour CVC il faut vendre.
Alors, Jackie, je te parle, je te peux me permettre de te reprendre sur un point. Tu disais au début que c'était pas le problème n'était pas de qui soumettait les règlements. Et j'ai envie de te dire, si, qui suggère. Parce qu'on regarde ces dernières années, il n'y a pas eu une suggestion, quelque chose de sensé. Il n'y a rien eu. De sensé, de cohérent, de logique, de quelque chose qui va dans le bon sens, il y a rien eu. On a eu des DRS, on a eu plein de choses que je trouve qui ont été aberrantes et on n'a pas eu une proposition plus ou moins globale sur certains points de règlement qui valait le coup. Donc l'idée de prendre quelqu'un qui est externe, et qui est pas rattaché à la FIA, parce que ce consultant pourrait même imposer des choses au niveau réglementaire à la FIA, notamment sur le safety car, sur cette carrière virtuelle, sur ce genre de choses, qui pourrait soumettre, voilà, une idée de règlement, du coup de soumettre un règlement global en disant voilà, moi ce que je vous propose comme règlement pour toute la F1, pas forcément technique.
Il soumet, mais c'est la FIA qui a le dernier mot dans le monde idéal. Enfin, c'est...
Non mais puisque j'entends veut le compromis.
Un consultant extérieur, il va te faire un règlement, il va te le donner à la FIA, il aura fait son boulot. Après la FIA, elle en fera ce qu'elle voudra.
Mais l'idée, c'est peut-être. Mais peut-être que l'idée, c'est de pas le soumettre à la FIA, c'est de le mettre directement au groupe stratégique ou à la commission F1.
Ah bon,
à l'ensemble, que tout le monde voit, règlement, si tu veux.
C'est la FIA qui doit décider. Il faut, faut pas non plus remettre encore du pouvoir que les écuries soient d'accord ou pas. Pas faire de la F1 telle que la FIA la propose, et elles vont faire de l'IndyCar. À un moment, faut arrêter.
Alors, j'entourne, il est prêt à prendre des décisions.
Ah bon ?
Avec la FOM. Attention.
Faut pas casser les moteurs.
Non. Faut que les équipes lui redonnent un mandat officiel pour décider.
Non, mais on marche sur la tête.
Puisque Jean-Todd donc a fait une conférence de presse sur la F1, hein, il a parlé de beaucoup de choses sur le fait que bon, il voulait pas des voitures clientes, et notamment voilà sur le fait voilà des décisions. Hein, je peux même vous sortir la citation. Ceux qui prétendent qu'ils doivent être impliqués puis qui demandent à la FIA et la FOM de décider, ceux-là seront les premiers à se plaindre car ils ne seront plus consultés. Il faut donc voir comment cela peut être mis en place. Bon. S'ils sont d'accord pour que nous décidions, alors je leur demanderai un mandat officiel et il y aura un accord écrit. Je suis prêt à le faire, mais j'ignore si c'est leur volonté réelle. Alors, rappelons que Jean-Todd n'est pas un consultant externe, hein, dernière nouvelle, hein, c'est le président de la FIA.
Qui a été élu?
On marche sur la tête depuis fin 2013 où le groupe stratégique est rentré en vigueur.
Voilà, le président de la fédération qui dit bah, je veux bien décider, mais faut m'en donner le pouvoir.
Mais en même temps,
là...
il a raison.
Oui,
non, mais c'est vrai, on lui a donné le pouvoir, il faut maintenant qu'il le reprenne, mais il ne peut pas le reprendre comme ça. Il faut,
exactement.
Il faut changer les accords commerciaux qui prévoient ce groupe stratégique, etc. etc.
Voilà.
Ils sont merdés et ils n'arrivent pas à se démerder, justement.
Oui, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Et c'est pas mal. Là où il est fin, Todd, c'est qu'il le dit, ce sera mis par écrit, tout ça. C'est en gros, il demande aux écuries de lui faire un chèque en blanc pour prendre les décisions qu'il veut au niveau réglementaire. C'est acté. Et c'est-à-dire que c'est intéressant. C'est intéressant. Et comme dit Gugus, c'est pour reprendre le pouvoir qu'il a lâché.
Malgré tout, il reprendrait le pouvoir avec Bernie et la FOM.
Il dit même pas lui tout seul, hein. Il dit avec la FOM.
Oui, mais la FOM, elle devrait pas décider ce genre de choses.
Non, vu la puissance, ça reste le détenteur des droits commerciaux. Donc tu peux pas l'ignorer.
Droits législatifs.
Mais on est d'accord, dans le monde idéal, c'est la FIA qui, elle seule, qui fait le règlement et l'impose. Le problème, c'est que commençons déjà par supprimer l'influence des écuries sur le règlement. Après, on verra plus tard pour la FOM.
Oui, parce que la FOM, l'influence de la FOM sur le règlement, je sais pas si elle est très souhaitable.
Alors, il a aussi souligné des idées, comme quoi, par exemple, l'été, les courses pourraient être à 18h.
Oui, c'est le gros problème de la F1.
C'est vrai, c'est le gros problème. Ah, justement, parce qu'il y a quand même son analyse. Hein, alors, comme je l'ai mis dans le, dans le conducteur, est-ce que j'entends des Dr House ou Doctissimo à ça, on verra. Puisque la F1 a la migraine, pas un cancer. Rappelons qu'une migraine peut, si elle est vraiment carabinée, peut être un signe avant-coureur de tumeur au cerveau, mais bon.
C'est ce qu'il dit sur Doctissimo, justement.
En fait, c'est une déclaration intéressante, parce que on parle beaucoup du, voilà, la F1 va mal, mais alors finalement, elle a un cancer ou juste une migraine?
Il y a un cancer institutionnel et,
Oui. Ou la gangrène, c'est... Il y a un moment donné, il va falloir amputer quelque chose.
Et dans l'opinion, voilà. Le cancer, il est dans les institutions et dans l'opinion générale autour de la F1.
Aujourd'hui, la F1 a une très mauvaise image parce que les courses sont pas intéressantes. Enfin, non, on va pas dire ça. Les courses, aux yeux du monde, on va dire normal, hein, pas de nous au SAV, mais tous les fans absolus oui. de F1.
Nous, on n'est pas des gens normaux.
On n'est pas des gens normaux.
Non, mais c'est vrai, il faut le préciser. Nous, on n'est pas des gens normaux.
La F1 se courrait sur des tondeuses à gazon. On suivrait ça quand même. Et on dirait que ce serait super. Même toi, Gus Gus. Et donc, mais aux yeux de personnes normales, la F1 est difficile à suivre. C'est vrai, c'est une réalité, ça.
Bah, tu sais, pour les gens normaux, j'ai même bien peur que la F1 est même en mort clinique. Hein.
Quand tu parles d'une course de F1 à des gens normaux, découvre que Schumacher, non peut-être pas quand même, mais ouais, quelqu'un qui m'a dit ça, Schumacher a arrêté, et il m'a dit ça il y a pas si longtemps que ça, il avait zappé qu'il avait eu un accident et il avait oublié.
Oui bon.
Tu vois.
Oui bon là il était dans une grotte le mec quand même, faut pas non plus.
Non oui. je pense qu'il avait oublié, mais c'est pas, c'est quand même symptomatique que ben voilà, il y a beaucoup de gens qui ont lâché la F1 il y a un moment. Et c'est pas le fait que
deux ans,
la...
quoi.
Non, c'est pas le fait que la F1 soit passée sur Canal+. Les gens avaient lâché bien avant. Et je pense que la réalité.
Bah, ça s'est fait progressivement, mais il y a quand même eu un sacré coup depuis deux ans. Hein. Il y a eu deux ans en France. Ça c'est indéniable, mais dans d'autres pays, plus le coup depuis l'an dernier.
Il faisait 3 millions par Grand Prix. Je me rappelle des fameux chiffres sur les audiences sur lesquelles on avait dû rétro-pédaler en début d'année l'année dernière, où il y avait 27 millions qui regardaient 15 minutes de Grand Prix dans une saison. Donc 27 millions qui, quand même, soit avaient une panne de télécommande, soit s'y étaient intéressés un minimum. Quoi. Ouais, mais c'est passé de 27 à 10 millions.
Voilà. Ça baisse. Et je pense que même avant qu'on soit passé sur Canal+, TF1 n'aurait pas lâché, ça n'avait pas été avantageux de... s'ils n'y gagnaient pas de l'argent.
Mais à un moment donné, la baisse de popularité, elle est aussi de la F1. Je blâmerai en partie TF1, qui a réduit le temps d'antenne de la F1. Ils ne diffusaient plus les qualifications.
Ouais, mais c'était diffusé sur Eurosport.
Non mais c'est du payant, c'est du payant, c'est du payant. Je te parle. Mais du coup, on parle de l'exposition grand public en France de la F1. Mais d'avoir les qualifications le samedi et la course le dimanche. Mais quelqu'un qui tombait sur les qualifications le samedi va se dire, ah ben peut-être demain c'est vrai, il y a la course, elle est à 14h. Ben peut-être j'ai rien de prévu, je la regarderai. Là tu vois, t'as plus les qualifs. C'est ouais,
L'âge d'or de la diffusion de TF1, il n'y avait pas les qualifs. L'âge d'or de la diffusion de TF1, c'est quand t'avais Automoto était en direct des Grands Prix européens. Il y avait le warm-up pendant Automoto. Il y avait F1 à la une pendant 45 minutes. Bon, ça, c'est resté longtemps. Il y avait F1 Magazine le lundi soir. Voilà, etc., etc. Bon, alors après, il y a eu les qualifs parce que Bernie est venu avec le contrat. Et avec des trucs surlignés, bon là il y a écrit vous devez mettre les qualifs, donc ils ont mis les qualifs. Ils ont supprimé la dernière année, mais voilà. Si tu compares cet âge d'or avec ce qu'on a eu sur la fin, sans les qualifs, avec un traitement
plus
podium, pas de magazine derrière, Automoto c'était plus vraiment du sport auto.
Voilà, et le moindre événement,
la F1 non prioritaire, ouais.
Ouais, ah oui, et ouais, il y a une F1 non prioritaire, c'est-à-dire que qu'elle n'était pas 14h, souvent il y a des chances qu'il y ait un truc qui ampute, quoi. Hein,
Alors t'imagines à 18h,
la F1 à 18h. Ah, c'est 2h avant le journal de 20h, c'est pas gênant.
Bah, oui, mais si elle déborde.
Canada 2011, ça a débordé, ça a fini sur Eurosport. Voilà.
Mais de toute façon, il était prévu que qu'il n'y ait que la première heure sur TF1, Canada 2011.
Je sais plus.
Si.
2011, puisque, 2012, 2013.
Puisque je me souviens. Non,
2012.
La chute, elle date pas d'il y a deux ans.
Voilà,
c'est
oui.
C'est quelque chose de longue durée qui s'est accéléré d'un coup.
Par le passage au payant.
Pour le passage au payant et aussi la nouvelle réglementation qui n'a pas aidé.
Donc là, l'année prochaine, quid de ce qui va se passer si. Imaginons.
Par rapport à Canal, pour l'instant, ils n'ont rien dit. Hein.
Non, mais imaginons qu'ils
disent. On arrive déjà à l'été, donc c'est quand même des questions qui. Ils sont arrivés sur le tapis.
Imaginons qu'ils décident de s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe là? On va où?
Je pense qu'Canal sera pas la seule chaîne à faire une offre. La question est de savoir si les autres feront une offre intéressante. Donc,
Beansport,
se rappeler que la dernière fois, TF1 avait mis une offre. C'est juste qu'elle était moins chère.
Et pas de beaucoup, hein, je crois. Je crois qu'il n'y avait pas énormément d'écart entre les deux.
J'ai pas vu de chiffres. Ouais.
Je me souviens qu'ils avaient annoncé les. Quand Canal avait été annoncé comme le détenteur de pour la les droits ayant
et qui avait été annoncé assez tardivement.
Ouais,
le 14 février.
Et je crois qu'ils avaient il y avait une estimation des offres faites de chacun. Alors il me semble que TF1 ils étaient à 27 ou 28 et Canal à 31 ou un truc comme ça.
Non, 27 ça devait être le contrat de TF1 avant.
Peut-être alors ouais. Mais je pense aussi que Canal, dans le contrat, ils ont dû dire ben, on diffusera tout, on diffusera les essais libres, on diffusera le truc, on va faire tel magazine. Je pense qu'aussi, c'est un truc qui, mine de rien, doit plaire à Bernissa.
Ils ont eu droit à un trophée, FIA, alors.
Ils
sont tous fiers de le mettre maintenant.
Ouais,
donc...
ouais mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand tu vois la belle, bonne couverture de la F1 qu'ils font, ils peuvent un peu bomber le torse à un moment donné.
Oui, c'est pas la BBC et Sky Sports non plus, hein, faut pas.
Ouais, mais d'accord, mais comme je connais pas ce qu'ils font, BBC et Sky Sports.
Un pirate un peu.
Ceci ne sera pas coupé au montage. Ah bon. Assume.
Tu crois que ça va choquer ceux qui nous écoutent? La plupart le font déjà.
Oui, la plupart le font déjà.
C'est pas bien.
Commencer
pas bien.
Par certaines personnes dans notre équipe.
Ouais,
c'est pas bien.
Que je ne nommerai pas, mais qui habite dans le Nord. Et dont le prénom rime avec le Nord, je aussi.
Messieurs, on va passer aux citations.
Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est une torture chaque fois. Bah, je vous laisse commencer les autres.
Bah, moi, j'essaye de me conditionner maintenant chaque fois que je vois une citation, de la noter dans un fichier. Et justement, ça me permet de déterrer cette pépite. Pareil, comme on fait souvent, je vais dire la citation, vous me direz qui a dit ça. Lorsque j'investis dans une discipline ou un événement sportif, je veux être responsable de A à Z du succès ou de l'échec, le cas échéant. Où est l'intérêt de s'engager dans le foot si c'est juste pour coller un logo sur le maillot des joueurs? Alors, selon vous, c'est qui?
Matesic?
Eh bien oui, c'est Dietrich Mateschitz qui a dit ça dans l'équipe en juillet 2010. Voilà, une petite petite. Alors mon cher Didi, si tu nous écoutes, j'ai envie de dire chiche. Tu veux être responsable de A à Z, je cite, du succès ou de l'échec de Red Bull Racing. Eh bien vas-y, fais ton moteur. Mets de l'argent vraiment en Formule 1, parce qu'il faut rappeler que depuis que dans les comptes de l'écurie en 2013 ou en 2014, je me souviens plus exactement, Red Bull ne mettait quasiment plus aucun argent dans Red Bull Racing. C'était une écurie qui est quasiment autofinancée. Donc voilà, le petit Mateschitz, il a énormément de retours sur investissement sur son truc en Formule 1, donc il arrête de pleurer, et s'il veut vraiment gagner et avoir, je cite encore une fois, être responsable de A à Z du succès ou de l'échec, qu'il mette de l'argent pour faire un moteur et qu'il arrête de gueuler sur Renault. Voilà,
de chouiner.
Je suis désolé de revenir encore là-dessus, mais j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu cette citation.
T'as bien fait, il le méritait.
Oui. Une citation d'Hülkenberg... Vous l'avez sans doute vu. C'est au sujet, vous savez, des autres pilotes. Parce que forcément, quand il est arrivé, il y a plein de pilotes qui disent « Ah ouais, ça serait cool que je fasse Le Mans comme lui et tout. » Et bah lui, il est assez réaliste. Hein. Il dit « Je pense que ce sont les équipes, plus qu'autre chose, qui empêcheront les pilotes qui le veulent de participer à cette course. » Sous-entendu, les 24 heures du Mans. Voilà, il pense tout simplement que malgré les nombreuses déclarations qu'il y a pu y avoir lors du dernier Grand Prix, au final, on va pas non plus voir une explosion des pilotes de F1 au Mans l'an prochain, hein, notamment parce que les équipes sont là. Il en a profité justement pour remercier Vijay Mallya, puisqu'il a eu l'autorisation et il l'a bien, il en a bien profité de participer aux 24 heures du Mans, et je suis assez d'accord avec lui, tout simplement. En effet, au-delà des déclarations, voilà, faut pas s'attendre à voir la moitié du paddock de F1 débarquer au Mans. On a aussi cité, j'ai vu Vettel et Alonso, pourquoi pas pour les 500 miles d'Indianapolis. Encore. Alors Alonso, il avait pas l'air non. Vettel dit, bah écoutez, c'est bien d'essayer des trucs, c'est du Vettel, quoi.
Quand on voit la course d'IndyCar à Fontana, on se dit qu'ils seront encore moins enclins à libérer les pilotes pour faire de l'IndyCar.
Il faut que je la télécharge, d'ailleurs.
Bah, et précisément, si vous faites partie d'un constructeur comme Ferrari ou Mercedes, on ne vous donnerait pas la permission de rouler dans une Porsche au Mans. Ah, ainsi va la vie. Voilà, c'est sûr.
Bah, c'est ce qui est arrivé à Alonso. Hein.
Alonso, oui. Lui, il voulait y aller. C'est McLaren qui n'a pas voulu.
Alors moi, j'ai une citation. Je ne vais pas vous dire de qui c'est et ni de qui ça, il s'agit. Mais je pense que vous allez deviner. C'est lui qui est passé à un point du championnat du monde. Il n'est pas arrivé là par accident. C'est à cause de l'équipe qu'il a perdu en 2008. Ah oui. Je sais ce que je dis. C'est à cause de l'équipe. D'un point de vue opérationnel, nous n'étions vraiment pas au niveau. Il aurait gagné le championnat avec 20 points d'avance, 1 point d'avance, ce qui fait 40 à 50 points de nos jours. Donc, ce n'est pas arrivé par accident.
Oui, c'est Rob Smedley à propos de Felipe Massa en 2008.
Exactement, voilà. Et c'est vrai que c'est pas des phrases qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que clairement, il n'est pas prêt de revenir chez Ferrari, lui. Si... ou peut-être qu'il s'est fâché avec eux.
Enfin, mais... il critique Ferrari de 2008. Hein.
Ouais, donc,
il critique
mais...
ça il y a 5 ans.
Ouais, mais.
Ans,
c'est... Ouais, c'est vrai, mais. dans mon imaginaire, j'ai pas l'impression que Ferrari ne soit pas une équipe rancunière. Pour moi, c'en est une. Et dire ça, je pense qu'ils lui en voudront, même l'équipe d'aujourd'hui, on va dire. Mais bon, c'est bien pour Massa d'avoir quelqu'un qui le soutient comme ça. Donc.
Oui, parce que enfin, quand on revoit les événements de 2008, on peut aussi dire la même chose pour Hamilton. C'est toujours pareil. Quoi.
Ah, c'est une compétition. Hein.
Globalement, en 2008, les meilleurs pilotes n'étaient pas Hamilton et Massa. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je vois plus Vettel et Alonso chez Renault meilleurs intrinsèquement, avoir fait de meilleures performances en rapport avec leur voiture par rapport à ces deux-là.
Bouchard,
j'en ai trouvé une. Je vais faire comme vous. Je vais donner la citation et vous allez me dire qui l'a dite. Je crois que la F1 va s'écraser et brûler avant de prendre une direction nouvelle, à mon avis. Cela arrivera finalement, mais je suis triste de voir ce processus à l'œuvre.
Ah, c'est moi qui ai dit ça.
Ah merde, qui c'est qui a dit ça? Je l'ai lu, cette citation.
Je l'ai pas lu, moi. Qui pourrait dire ça? C'est Max Mosley?
Non.
C'est pas Richard Branson. Comment il s'appelle l'autre, de Virgin?
Ah si, Richard Branson.
Si, Richard Branson.
Oui,
non.
Je confonds. Ouais. Mais parce que lui, Richard Branson, il a dit que la Formule 1 allait dépasser la F1 en 5 ans.
Ah, elle a pas gagné quand même.
Non. Mais c'est qui? C'est pas Flavio ou.
Ah, ça se rapproche.
Dans le même genre.
Tu brûles.
Montezemolo?
Non.
Ah, Whitmarsh, Martin Whitmarsh.
Voilà, bienvenue, Gus.
Redis la phrase alors, du coup?
Je crois que la F1 va s'écraser et brûler avant de prendre une direction nouvelle, à mon avis. Cela arrivera finalement, mais je suis triste de voir ce processus à l'œuvre. Et le pire, c'est que je pense qu'il a raison. Ouais, je suis de son avis.
Ah, déjà, on est. Que c'est ridicule.
On est ravis d'apprendre que Martin Whitmarsh est vivant.
il a toujours officiellement pas été viré.
si, j'ai vu un article l'autre jour où il disait qu'il était chez McLaren, donc il utilisait l'imparfait.
Donc, oui, mais je veux dire, officiellement, ils n'ont pas dit qu'il était viré, même si c'est le cas. Voilà.
Oui, McLaren n'a jamais balancé un communiqué pour dire que Martin Whitmarsh changeait de projet, parce que pour des raisons personnelles, le truc habituel, quoi.
Moi, cette déclaration, c'est très mal formulé, parce qu'on voit ce qu'il veut dire, mais si la F1 s'écrase et s'embrase, j'ai plus la formulation en tête, c'est ça veut dire que c'est la fin. Sinon, ça veut dire qu'elle trouve un moyen de rebondir et donc elle s'est pas écrasée, quoi. Enfin,
oui, effectivement.
C'est qu'elle va toucher le fond, mais qu'elle va rebondir. Donc,
voilà, non, c'est ça. C'est
la formulation est bizarre, elle est un peu contradictoire, en fait, entre le début et la fin.
Alors là, je sais pas, parce que moi, j'ai trouvé en français la déclaration, donc il faudrait voir la version anglaise, s'il n'y a pas eu un petit hic à la traduction. Mais oui, l'idée globale, c'est de dire, voilà, elle va chuter, et elle va finir par rebondir, mais...
Comme le phénix.
Voilà, mais voilà. renaître de ses cendres, mais effectivement, et c'est surtout la deuxième phrase. Cela arrivera finalement, mais je suis triste de voir ce processus à l'œuvre. Et c'est ça aussi que je trouve qui est juste, c'est que ça fait, on le sait, qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que la F1 se renouvelle, mais que c'est, ça fait mal de le voir, ce processus.
Lui, il serait bien aussi en consultant pour les règlements. Ah bon?
Parce que... Il était team manager, il n'était pas technique.
Non, il n'était pas du tout technique. Et je pense que pour gérer...
Peut-être pour des règlements sportifs, à la limite.
Non, parce que même si Rosebrun, on peut dire que c'est le consultant, mais ce n'est pas lui qui va faire. Il va avoir une équipe derrière et c'est lui qui va signer. À la fin, c'est ça qui va se passer. Il va collecter toutes les idées. Et je pense que je le vois plus... comme Rosebrun, d'ailleurs, je le vois bien meneur d'hommes plus Whitmarsh, comme Rosebrun, d'ailleurs. Contrairement à Newey, par exemple, si on mettait Newey à faire du consultant sur les règlements, Newey, lui, il apporte les idées. Et pas, je le vois moins meneur d'homme. Bon, voilà, c'est un parti.
Alors, j'ai retrouvé la citation, et à mon avis, c'est très mal traduit, parce que la phrase en anglais, c'est « I think it will crash and burn before it gets turned around ». Donc, je pense que ça va s'écraser et brûler avant qu'il puisse retourner la situation. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que dans le sens où...
Donc c'est négatif.
Oui.
En même temps, chercher à comprendre où il se marche.
Oula, ça a été... Ça fait quelques mois à mot de chez
moi. C'est un des plus grands running gags de tous les traducteurs anglo-français de textes de F1.
Mais Boullier aussi, parce que en fait, c'est pas ni Boullier ni Whitmarsh, c'est le mec...
C'est le moule McLaren.
Oui, c'est ça. C'est le directeur de la communication de McLaren qui a un hachoir à déclaration et qui les remet à sa sauce à chaque fois.
Allez messieurs, on va réembrayer sur la deuxième partie des actus et grande nouvelle, vous aviez peut-être répondu à ce fameux sondage du GPDA en association avec Motorsport. Eh bien, les résultats sont sortis. Et on a même droit à un beau PDF de 15 pages censé être de résultats complets, mais qu'en fait, vous lisez l'article en fait qui résume et vous avez le contenu du PDF. Tellement c'est peu complet.
Je retrouve le PDF parce que j'avais trouvé que c'était, il y avait des choses intéressantes quand même.
Voilà, ouais.
T'as bien cherché, dis donc.
Hein. Donc rappelons qu'il y a une écrase. Donc il note qu'il y a 200 000 fans qui ont répondu, que pour 89% des gens qui ont répondu, la F1 doit être plus compétitive, qu'elle doit attirer davantage des fans pour 85%, que ses intérêts commerciaux sont actuellement trop importants à 77%. Que la paix c'est mieux que la guerre à 78%, que leur animal préféré sont les licornes, surtout quand elles sont roses, à 74%. Franchement, ça ouvre des... C'est-à-dire que le GPDA n'a peut-être pas trouvé de solution pour sauver la F1, mais ils ont trouvé des solutions pour la canicule qui consiste à ouvrir des portes grandes ouvertes.
À brasser du vent. Voilà.
Moi, j'y ai trouvé des choses intéressantes.
Allez, fais ta liste.
Voilà.
Alors, j'ai retrouvé le PDF. Donc, c'est 17 pages, tu dis.
Oui, attends, alors 17 pages. La page 1, c'est l'intro. La page 2, c'est le sommaire.
Oui.
La page 3, la page 4, la page 5, c'est du texte. C'est-à-dire, oui, on est super content que vous ayez répondu.
Voilà. Okay.
La page 6, en gros, c'est un rappel voilà, des gens qui ont pris part de 194 pays dans plein de langues. Ensuite,
la page
t'as une méthodologie et une typo.
Arrêtons-nous là.
Oui.
On rappelle qu'il n'y a pas de ta gueule lors de cette émission. Donc,
C'est dommage. Hein.
Oui.
Le deuxième pays, le premier pays de la F1 qui a répondu, c'est évidemment l'Angleterre.
Mmh.
Le deuxième pays, c'est la France.
Ça m'a surpris.
Ah.
Et le troisième aussi m'a surpris.
Mais je vais vous expliquer.
Ils sont où, motorsport.com?
Motorsport.com, alors le troisième c'est les États-Unis, tu allais le dire. Motorsport.com, c'est un site américain au départ.
Ah, d'accord.
Donc voilà.
Quatrième, l'Autriche.
Oui, mais après, sur la deuxième place de la France, il faut aller voir motorsport.com aussi, parce qu'à mon avis, c'est ça le truc principal, parce que l'Allemagne est cinquième et l'Italie est neuvième, le Brésil dixième. Bon, alors, motorsport.com a une version brésilienne depuis très peu de temps, portugaise, mais n'a ni version italienne ni version allemande. Alors le sondage était traduit a priori en italien et en allemand, mais Motorsport.com n'a pas pu en faire la publicité auprès des lecteurs allemands et italiens. Donc effectivement, comparé à la France où ils ont racheté Toile F1, qui est mine de rien un site qui marchait qui marche toujours très bien, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réponses qui sont venues de France.
Mais non, toutes les réponses sont venues grâce au GPDA quand même, c'est pas Motorsport.
Alors moi j'apporte, je tempère quand même ton propos, parce que typiquement, alors je suis pas la généralité, mais typiquement moi je suis pas j'ai pas accédé au sondage directement sur le site de Motorsport. C'est parce qu'il y a eu le lien dans un article et que j'y suis allé, et qui était pas sur qui était sur un autre site.
Ils ont aussi parlé du chiffre de 217 756 qui rationalisé aux 194 pays censés avoir répondu, ça fait faible quand même en moyenne par pays.
Oui.
Ouais.
Pour un truc mondial.
Surtout que sur ces 217 000, ils en ont pris des échantillons soi-disant représentatifs par pays et par intérêt. Alors ça, j'ai pas bien compris par intérêt, mais en tout cas voilà. Donc ils ont au total ces 133 000 votes qui ont été pris en compte pour faire les résultats.
D'accord.
Sur les 217 000 qui ont été enregistrés.
Moi, je sais que j'en fais pas partie parce que j'ai essayé de voter et ça a merdé à chaque fois.
Bah oui, moi non plus.
Ouais. Non, après, les pages suivantes, c'est une typologie, c'est vrai, des gens qui ont voté. Je vais pas dire parce qu'ils mettent l'audience et fin globale, c'est ceux qui ont voté.
Alors, moi, dans les autres qui m'ont intéressé, c'est la page 9. Comment vous suivez la F1? Alors, il y en a 90% qui suivent en regardant la télévision et 45% qui le regardent online.
Donc il y a 135% du public qui regarde.
Non, mais je veux dire, ils peuvent la regarder online ou la télévision si on veut. Et 30% qui la regardent on demand. Donc ça veut dire qu'il y a des chaînes en dehors, j'imagine en dehors de la France.
Du pay-per-view.
Qui proposent du pay-per-view. Mm. Mais le online, il y a des choses online aujourd'hui?
Par exemple, si tu regardes MyCanal. Non, à la demande, ça peut être online, mais ça peut être du pay-per-view, ça peut être par le câble.
Oui, c'est ce qu'ils expliquent.
Voilà.
Non mais
online, ça peut être par exemple via MyCanal.
Non mais
via l'écran du PC.
Il y a la façon dont ils ont posé la question et la façon dont les gens l'ont comprise aussi.
Parce que on est d'accord. Mais
si tu la regardes à la demande, tu la regardes en ligne. Donc bon.
Non.
La réponse n'est pas assez précise.
En demande, ça peut être sur la télévision aussi.
Oui, d'accord, mais. Peut être aussi en ligne.
Oui, ça peut être en ligne. Mais moi, quand je prends en ligne, je pense notamment à tous ceux qui regardent la F1 sur des sites illégaux. Et il y en a quand même 45%. Enfin, si c'est ça.
Mais il y a aussi, il y a des chaînes de télé qui diffusent via Internet et des gens qui regardent la télé via l'Internet. Comme je l'ai dit, quand tu regardes sur MyCanal, c'est sur ton écran de PC. C'est de la télé, mais c'est sur l'écran de PC.
Ok, moi je l'avais mal interprété dans ces cas-là. Ouais.
Ah mais après c'est vrai que entre ce qui est dit dans la question et comment les gens ont compris, sans doute que dans les 45% Watch Online, il y a aussi des gens qui lui mettent parce que c'est par via du streaming illégal. Pas de doute.
Bon, Kimi Raikkonen est le mieux noté.
Oui, Ferrari, ouais, quelle surprise.
Quelle surprise.
Oui. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'a surpris toujours sur la
Jenson page Button, 9. Jenson Button, 3e. Oui, pardon.
Sur la page 9, on dit, c'est écrit que le pilote de F1 le plus suivi sur Twitter, c'est Jenson Button. Pourtant, je crois que si tu regardes les nombres, c'est Alonso.
Pas Alonso, ouais.
Donc, ils ont répondu Jenson Button, mais dans la réalité, c'est Alonso qui est le plus suivi.
Ouais, mais n'oublie pas que les premiers pays parmi ceux qui ont voté, c'est l'Angleterre.
Oui.
C'est pas l'Espagne. Et
mais
l'Italie.
Normalement, tu vois, c'est censé être. Prendre un échantillon de chaque pays et prendre les pays dans la proportion de. Enfin, voilà. Ça, normalement, c'est censé être récupéré, quoi.
L'Espagne n'est même pas dans les 10 premiers.
Hein. Par contre, c'est intéressant, plus de 50%, vous ne regardez plus les courses en direct depuis que les diffusions ont passé en télévision payante.
Bon, après, ils parlent des voitures qu'ils ont préférées, donc c'était les voitures des années 2000, les meilleurs pilotes.
Ah non mais ça, faut en parler, ça a du goût des gens quand même.
Ah oui, c'est le passé.
C'était par décennie, les années 50 ont 3%, les années 60 en ont 5, les années 70 en ont 12, les années 80 en ont 18, 90 on monte à 20, les années 2000 à 32 et actuellement 10%.
C'est ce qu'a noté Thibault Larue dans un papier qu'il a publié aujourd'hui même, 1er juillet. C'est que ça montre que les gens connaissent ni les années 50, les 60 et les 70. C'est passé sous silence. Quoi. Les gens ne s'y rattachent pas du tout. Quand tu vois aussi le top 3 des pilotes de tous les temps, c'est Senna, Schumacher, Prost. Voilà, c'est pareil. C'est depuis les années fin 80, début 90. Quoi.
Et après, le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est les comparatifs entre 2015 et 2010. Où on dit que en 2015, si on donne trois adjectifs, c'était cher, technologique et ennuyeux. C'est des adjectifs qui peuvent décrire la F1. Et en 2010, c'était technologique en premier, alors que c'est en deuxième pour 2015. Compétitive, genre c'est compétition, j'imagine.
Où il y a de la compétition.
Où il y a de la compétition, voilà, en deuxième. Et excitant.
Attends, c'était super excitant de voir Red Bull dominer.
Je sais pas, mais
après c'était si le sondage a eu lieu en 2010, il n'a pas eu lieu forcément fin 2010, et puis c'était le début de la domination de Red Bull.
C'est vrai.
Mais justement, il y a ce sondage de 2010. Vous en aviez entendu parler?
Ah non, moi je découvre.
Je sais pas d'où.
C'est même dans les
il signe 2010, mais il parle même pas d'un sondage en 2010.
A priori, c'est Repucom, quoi. Enfin, c'est l'organisme qui a fait le sondage et qui a dû donc le faire il y a 5 ans.
Parce que même dans les questions, je crois que j'y ai répondu à cette question-là, mais je l'ai pas vu en 2010, effectivement. Et après, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant ?
Maintenant, peut-être plus généralement, avant de rentrer vraiment dans les détails d'autres questions, sincèrement, on n'est pas surpris non plus de ce qui ressort de ce sondage. Déjà, on avait douté de son intérêt avant même de voir les résultats. Bon, les résultats sont absolument pas surprenants. Ils nous apprennent rien. J'y vois rien. C'est-à-dire que sur la comparaison de 2010 et 2015, on rabâche tellement que la F1 c'est nul, c'est chiant, etc., etc. C'est cher, qu'effectivement, c'est les trois adjectifs qui ressortent le plus. Chiant. Et cher avec technologique, mais technologique a priori ça changera pas, quoi. Enfin, c'est ça qu'on vient de me dire qu'une voiture de Formule 1 est moins technologique qu'un maillot de football ou qu'une voiture d'IndyCar. C'est absolument pas.
Fais gaffe, il y a des marketeurs d'Adidas qui peuvent être très convaincants.
Moi, ce qui me gêne, c'est que ce qu'ils disent, c'est que le temps moyen pour remplir le sondage a été de 25 minutes et 15 secondes. Et que pour lire ce PDF, honnêtement, je pense que j'ai bien lu quand même, pas en diagonale, mais moins de 5 minutes.
Ah non, mais c'est ce que je disais, c'est qu'on est très loin de résultats détaillés.
Oui, parce que toutes les questions auxquelles on a répondu, il y en a pas. Enfin, on aurait aimé avoir autant de pages que de questions sur lesquelles on a, parce qu'on a mis du temps à remplir ce.
Oui.
Et je trouve ça hallucinant que ce soit si synthétique.
Et même sur le temps moyen de 25 minutes, ça me paraît court pour y répondre.
Oui, moi aussi.
Il y en a qui ont dû le faire par-dessus la jambe, quoi. Enfin...
Oui, parce que moi j'ai mis un peu plus d'une demi-heure, je crois.
Alors moi j'ai mis une heure et à la fin ça disait désolé, ça s'est pas enregistré. Au revoir. Merci.
Enfin bon, on veut faire de la F1 un championnat parfait, qui serait un championnat où il y aurait de la technologie, qui serait pas cher, où il y aurait plein de spectacles, et tout. Voilà, je pense que
qui serait suivi, bien.
Qui serait suivi, de partout. Enfin, ce serait 7 milliards à regarder la F1.
Si ce sport était si parfait, effectivement, ce serait le sport le plus populaire au monde.
Ah, t'imagines, si CVC vend et que l'année prochaine on soit 7 milliards à regarder la F1, ils vont se mordre.
C'est ce qu'on disait avec Thibault Larue. On en a 30 trop de la F1, quoi. On se fait des illusions sur ce qu'a été la F1 un jour.
Oui, c'était vrai. Mais c'est presque un. Enfin, chacun y voit une utopie aussi dans la F1. Chacun voit ce qu'il a envie d'y voir.
C'est sûr que nous aussi, on rêve quand
Toi, t'as une vision, moi j'en ai une autre, Bouchard en a une autre, Victor, Shinji, enfin Ben, tout le monde a sa propre vision.
Elder.
Je sais pas s'il voit beaucoup Elder. Tu m'excuseras, c'est juste pour le bon. Mais voilà, c'est un peu une utopie aussi, donc voilà, on peut comprendre que tout le monde ait envie de mettre son grain de sel, comme à une époque on disait voilà, on est 60 millions de Français, il y a 60 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on voudrait tous être à la place de Jean Todt ou de Bernie pour décider de voilà, maintenant c'est nous le dictateur et c'est nous qu'avons la bonne vision de la F1 et c'est comme ça que ça va se faire. Mais
maintenant dans ces proportions, ça me rappelle justement ce 14 février 2013 quand Canal Plus est arrivé, où ça me rappelle un poste de Lionel Froissart qui disait, alors vous voudriez un diffuseur qui retransmette toutes les sessions en direct avec ouais, un magazine qui parle, etc., avec de bons consultants, de bonnes analyses, puis un magazine juste après, puis des replays, puis machin, pour pas cher et sans publicité,
pour gratuit sans publicité,
voilà. Donc c'est à peu près les mêmes enseignements qu'on voit dans le sondage, quoi. On veut tout de la F1 sans contrepartie, quoi.
Voilà. Liberté technique, des moteurs de malade, mais moins cher.
Oui.
Accessoirement.
Avec la sécurité en plus, j'ai vu que. Alors, c'est. Je ne sais plus quelle est la question. Mais la sécurité, c'était pour 80%. Non, c'est le rôle qu'on veut voir, c'est ça, le rôle qu'on veut voir jouer aux pilotes. Pour 83% des gens, les pilotes doivent pousser en avant la sécurité en F1.
C'est les principaux concernés, en fait, c'est pour ça, ça paraît logique.
Et quand tu regardes les attributions qui demandent des pilotes, il n'y a pas, enfin...
Être ouvert et honnête avec les
fans. mais j'ai coché ça, parce que c'est vrai.
Mais moi aussi.
On veut pas de pilotes qui soient corporate et tout, qui disent pas ce qu'ils pensent, même si quand ils disent ce qu'ils pensent, bah, on leur tape sur les doigts parce que c'est pas corporate, tu vois, c'est toute l'ambiguïté, quoi. Mais
accessoirement, on veut aussi avoir du refueling,
oui,
ouais. Ça,
oui, mais pas cher. Donc tu vois, ce sera de l'essence qu'on prendra. Il faudra sortir du circuit, aller à la pompe totale, tu vois, ou peu importe la marque à côté. Tu mets, toi, le pilote, il descend, il fait le plein, il paye, il se barre. Voilà.
Et ils veulent une guerre des pneus.
Oui.
Ah
oui.
Même si je pense qu'en fait, les gens disent on veut une guerre des pneus, mais quand ils disent on veut une guerre des pneus, ils disent on veut plus ces pneus-là.
Ah oui, c'était.
Oui,
ça
je pense. Je pense qu'il faut le traduire comme ça. Je suis d'accord avec toi, Shinji.
Alors, Autosport a fait un article aujourd'hui aussi, sachant que eux avaient lancé leur propre sondage, disant que bon, le monde de la F1 était assez sceptique par rapport aux sondages qui sont lancés, même le leur d'ailleurs. Donc, tant qu'à casser du sucre sur motorsport.com, autant casser du sucre sur soi-même aussi. Voilà. Et il y avait justement une question en sondage qui était posée, parce que Autosport va mettre les résultats dans l'édition de juillet de F1 Racing, parce que c'est le même groupe. Et mais dedans, donc ils ont dit que 63,3% des sondés dans leur sondage à eux veulent un retour à des gommes plus durables.
Ce qui est une hérésie.
Ça dépend à quel point ils sont durables.
Bah, genre 2 tours de plus, quoi.
Et donc le PDF se termine par les contacts. Hein. Si vous voulez envoyer une lettre au GPDA, sachez que c'est au Coronado, 20 avenue de Fontvieille, à Monaco.
Oui, avec même l'adresse mail. Vous pouvez
spammer l'adresse mail.
GPDAinfo@monaco.mc.
Non, c'est pas bien de spammer. Vous pouvez envoyer beaucoup de mails à cette adresse, mais c'est pas bien de spammer.
Vous pouvez envoyer des courriers, par contre, c'est pas sûr qu'on vous réponde. J'ai pas d'expérience dans ce domaine. Enfin,
honnêtement, ce serait marrant d'envoyer une lettre, voir s'il y a une réponse.
Parle pas français, Alexander Wurst.
Mais tu lui envoies en anglais. Ah, c'est ça qui bloque.
Non.
Ah, je suis moins sûr.
Il réfléchit.
My Taylor is rich.
Il réfléchit quand est-ce qu'il va pouvoir le faire.
Ah, j'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai que...
Donc finalement, voilà, des résultats attendus. Il n'y a pas de surprise.
Oui.
Donc ouais.
Merci à tous.
Oui, finalement, on découvre que ce que veulent les fans, c'est ce qu'en fait disent les fans depuis plusieurs mois. C'est génial.
Mais c'est ce qu'on avait dit. C'est pas comme s'il y avait des réseaux sociaux où on pouvait lire ce dont avaient envie les fans, quoi. Il fallait vraiment faire un truc récapitulatif sur lequel on ne dit pas tout en plus, quoi.
Allez, passons à une large place aux pilotes, diverses actus. Une qui concerne Maria de Villota. Son nom est revenu à la une des actualités. En effet, donc c'est BBC et Autosport qui ont pu consulter en fait un rapport qui apporte un éclairage nouveau sur le tragique accident qu'elle avait eu. Un rapport que, si elle n'est pas décédée sur le coup, elle est décédée un an plus tard, sans doute des suites de cet accident. Jusqu'alors, la justice privilégiait en fait l'erreur de pilotage. Clairement, mais bien ce rapport n'est pas aussi
tranché.
Enfin tranché, voilà. Merci. Il apporte un éclairage nouveau et notamment met en cause quand même Marussia. Il cite notamment donc la position contestable du camion. Ah, c'est pas surprenant. Et de sa rampe, l'absence de recommandations de sécurité et le manque d'informations techniques et logistiques données à Maria de Villota. Le rapport confirme que Marussia n'a pas pris en compte ses propres installations et équipements ou le design de la voiture pour évaluer les risques de ses essais. Visiblement, l'Espagnol avait reçu des instructions sur la façon de piloter la monoplace. Elle n'avait pas été mise au courant de la procédure d'arrêt ou de quel rapport de boîte choisir. De plus, lorsqu'elle a signalé qu'elle ne pouvait pas utiliser l'embrayage si ses roues étaient braquées à fond, elle s'est vue répondre que ça n'avait pas d'importance puisqu'il n'y aurait pas besoin de tourner au maximum pendant le test en ligne droite. Au niveau des détails, qu'est-ce qu'il y a ? Le rapport précise que Maria de Villota avait terminé avec succès deux tests sur la piste et qu'elle rentrait vers le garage à 45 km/h. L'Espagnol avait ensuite freiné. La voiture commençait à ralentir jusqu'à descendre à un régime moteur de 4100 tours. Le système de contrôle était à ce moment entré en action pour tenter d'empêcher la voiture de ralentir davantage et le moteur de caler. Les données montrent que c'est le début de la première des trois périodes d'oscillation indiquant que la voiture combat le pilote. Elle voulait freiner et la voiture, elle, ne voulait pas ralentir. Et que Maria de Villota n'avait pas été informée de la façon dont le système de contrôle affectait l'arrêt de sa voiture. L'Espagnol avait de plus indiqué qu'à cet instant, elle avait appuyé sur le bouton de déverrouillage de l'embrayage pour passer au point mort, mais que rien ne s'était passé. Les roues avant droit puis gauche s'étaient ensuite bloquées, avant que de Villota ne tente sans succès de rétrograder deux secondes en première. Le couple moteur étant supérieur à 100 newton-mètres, relâchant alors légèrement la pédale de frein, les roues s'étaient mises à tourner, mais la pression suivante avait à nouveau bloqué la gauche et la voiture a heurté donc la rampe du camion. A priori, enfin, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais la famille, au vu de ces informations, n'exclurait pas peut-être de porter plainte contre Marussia, alors Manor aujourd'hui. En tout cas, c'est un éclairage nouveau parce que visiblement, elle a tenté de faire des choses quand même pour éviter cet accident, alors que, en effet, on partait plutôt sur une erreur de pilotage et sur son inexpérience. C'est pas complètement ça.
Alors, t'as parlé d'embrayage et de roues tournées au maximum. C'est quoi cette histoire ?
Je pense que c'est quand tu tournes le volant, quand tu braques le volant à fond, elle doit pas pouvoir avec sa main attraper les pédales d'embrayage.
Enfin, voilà, elle a signalé qu'elle ne pouvait pas utiliser l'embrayage si les roues étaient braquées à fond.
D'accord. Voilà. Parce que dans le rapport, il est marqué, enfin dans les feuilles que j'ai voyant sur Autosport, il est marqué qu'elle a, je crois que tu l'as dit d'ailleurs, que quand elle a essayé d'activer l'embrayage, qu'elle a appuyé sur l'embrayage. Ça n'a pas fonctionné. Moi, à mon avis, c'est là qu'est la faute la plus grossière de Marussia. Alors évidemment, il y a laisser le camion, mais comment tu peux aussi...
C'est souligné, hein, c'est pourquoi ce camion était là, voilà.
Oui, mais bon, après, comment tu veux empêcher ça ? Enfin, évidemment, c'est le bon sens de ranger le camion et tout ça, mais comment, après, une fois qu'il n'est pas rangé, tu peux voir que le truc, il est à la même hauteur que les yeux, etc., etc.
Et pourquoi elle n'a pas tourné pour l'éviter ? Parce qu'on a 45 km/h, la voiture tourne à ce moment-là. Il y a plein de choses qui peuvent se... Enfin, voilà, c'est...
C'est écrit qu'elle a cru qu'elle, sa déposition à elle, parce que malgré tout on a pu l'entendre, elle dit qu'elle a cru qu'elle éviterait le truc, mais qu'elle a pas réussi à le faire.
En freinant notamment. Visiblement, oui. Elle a essayé, même pas de tourner pour éviter, mais tout simplement de freiner la voiture avant.
Elle essaie de freiner, et puis l'embrayage a pas marché, puis comme l'embrayage a pas marché, l'antistall a fait que le régime moteur a été maintenu. Donc voilà, freinez pas.
L'idée que voilà, la voiture a combattu le pilote.
Oui.
Ça rappelle aussi ce qu'a vécu Bianchi apparemment quand il a mis en. Il y a une procédure de sécurité, quand tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps, normalement il y a quelque chose qui se désactive sur la voiture qui n'avait pas fonctionné dans l'accident de Jules. Est-ce que c'est le même genre de.
petits détails qui manquaient sur ces voitures qui étaient pas sans... enfin, qui étaient là juste pour faire des tests en ligne droite, prendre l'argent de Villota.
Voilà, a priori qu'elle appuie sur l'embrayage et l'embrayage marche pas.
Il y a un problème. Hein.
Ouais. Et quelque part, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'est rassurant entre guillemets parce que mine de rien depuis cet accident, on a eu un peu peur. Moi j'ai eu un peu peur que c'est ton manque d'expérience et une faute de pilotage. Tu l'as dit, on pensait plutôt que c'était dans ce coin-là parce que bon. On n'avait pas tous ces éléments et que malheureusement bon en l'absence d'éléments qui
c'est étonnant quand même que ses proches n'aient pas eu ces éléments là parce que visiblement c'est la presse qui a récupéré ces informations.
Ils ont peut-être eu en même temps que enfin si on a ces informations maintenant, c'est que le rapport vient d'être rendu, j'imagine. En tout cas, dans les dernières semaines. Enfin,
J'ai rien de précisé sur les conditions. Non.
Alors, moi, c'est sur Autosport que j'ai lu l'article. Et vu la formulation du début, en fait, je pense que c'est comme c'est un organisme public qui a généré le rapport. Si tu veux, tu peux y accéder, mais il doit falloir faire la demande, ce genre de choses. Ou alors ils ont peut-être dû assister.
C'est le mois dernier, c'est écrit dans l'article d'Autosport.
Donc,
en tout cas,
ils sont allés le chercher l'article, le rapport. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Qui sont donné
en tout cas, la commission de sécurité, je sais pas comment on peut traduire ça parce que c'est pas très traduisible, la commission de sécurité et de santé qui a étudié l'accident a conclu que, en tout cas, elle ne ferait aucun, ne prendrait aucune mesure contre les deux parties. Mais oui, donc moi je trouve que c'est plutôt rassurant parce que bon, jusqu'ici on pensait que c'était plutôt sa faute à elle. Dans le pire des cas pour elle, c'est les torts sont partagés, même plutôt vers l'équipe et la voiture.
Et ça prouve qu'on peut avoir des rapports détaillés sur des accidents.
Oui. Parce que n'est-ce pas la FIA
ces derniers temps, voilà.
On l'aura peut-être hein.
Un jour.
Et Maria de Villota, c'était pas une inexpérimentée quand même en monoplace.
Non, mais en Formule 1. Enfin,
en Formule 1, oui.
Tu conduis pas une GP3 comme tu conduis une F1. C'est pas les mêmes procédures. T'as énormément de procédures.
Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que elle devait avoir un petit peu d'informations quand même sur les moyens de démarrer la voiture, de l'arrêter, tout ça. Donc, parce que si elle appuie si elle appuie sur le bouton pour débrayer, c'était quand même qu'on lui avait dit que ce bouton-là, c'était
mais
pour
non, mais c'est... Oui, mais en fait, c'est un réflexe de conducteur. C'est pas un réflexe de pilote de F1. C'est un réflexe de conducteur. T'as ta voiture, ton moteur qui continue à pousser ta voiture alors que tu cherches à freiner, tu commences par débrayer. C'est...
Et donc, puis, je veux dire, excuse-moi, Jacques, mais toi comme moi, savons quelle palette débraye une Formule 1. Nous qui ne sommes pas dans les écuries, on sait où c'est.
Alors, je l'ai pas lu chez Autosport, je ne sais pas quelle est la traduction, enfin le texte réel, mais on parle bien de déverrouillage, on ne parle pas d'embrayage. Donc, pour moi, c'est un bouton qui amène au neutre. Ce genre de bouton
qui débraye, désenclenche l'embrayage, quoi. Et au lieu de chercher à mettre.
Je vois le texte, alors j'ai le même que Shinji. Où est-ce que j'ai vu ça?
Bah, en tout cas, peu importe, de toute façon, elle a essayé, ça n'a pas marché.
Elle avait appuyé sur le bouton de déverrouillage de l'embrayage pour passer au point noir.
Enfin, mine de rien, il y a une ligne à un moment qui dit qu'on lui a pas assez donné d'informations.
Ah oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense qu'on lui a pas donné d'informations. C'est vrai que pour moi, j'y croyais pas trop à l'erreur de pilotage ou à l'inexpérience. Je pensais plus que c'était un problème côté Marussia que l'inexpérience, parce que pour moi, elle est pas si inexpérimentée que ça. Elle n'était pas si inexpérimentée que ça. Donc ça semblait illogique qu'elle n'arrive pas à arrêter la voiture. Parce que des tests en ligne droite chez Marussia, il y en a eu plein, par plein de pilotes. Et c'est peut-être parce qu'elle a eu un accident grave quand on en a parlé. Le fait qu'elle était une femme souligne le fait que tous ceux qui pensent que les femmes ne devraient pas avoir leur place en F1, ça font qu'il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. Et en plus, le fait qu'elle soit décédée plus tard. Moi, je trouve ça triste pour elle et sa famille à cause de petits détails, parce que c'est un accident bête. Hein, elle est perdue la vie. Hein, donc voilà. Effectivement, ça, le rapport corrobore la pression que j'avais moi, en tout cas.
Maintenant, on verra. Est-ce que la famille peut-être va poursuivre ? On ne sait pas. je vous propose de passer à une actu. Ah. Oui, quand même plus joyeuse. Oui. Hein, même si c'est un retraité de la F1, lui, c'est Mark Webber.
Ah, c'est plus rigolo.
Oui, ah, il sort sa bio. Hein, au Sigrid cette semaine, je crois, en langue anglaise, hein, précisons. Hein, pour l'instant, pas encore de version francophone. Et bah, comme d'habitude, dans ce genre de bouquin, il y a les bonnes feuilles, hein, comme on dit, qui sortent avant. Et notamment, alors on a appris plein de choses, notamment le fait qu'il aurait pu être pilote Ferrari en 2013. De même qu'il nous donne quelques révélations, hein, sur sa relation contrastée, on va dire. Avec Sébastien Vettel, tumultueuse. Et c'est les deux choses que j'ai vues, hein, qui avaient ressorti des feuilles, comme on dit.
Oui, pour l'instant, personne n'aura pas lu en entier. Bon, hein, il y aura peut-être des trucs plus croustillants qui sortiront, genre sur les Mercedes au Mans, etc. etc.
Et comment de faire un 360 dans une Red Bull à Valence
360 vertical.
Vertical, oui.
Ouais, il est spécialiste.
Non, déjà, voilà, il aurait pu être pilote Ferrari pour 2013. Alors, ça s'est pas fait parce qu'il n'avait pas des garanties, notamment. Je crois que Ferrari ne voulait qu'une année.
Avec une option pour assez, une année voilà. De plus, ça alors que lui,
plus
voulait
un
deux.
Et pas deux.
Voilà. Voilà.
Donc finalement,
ce qui
il
est très drôle, c'est
chez
que du coup, il a fait un chez Red Bull et pas deux. Voilà, donc bon, c'est un peu bizarre, quoi, parce que justement, par rapport à ça, il voulait pas aller chez Ferrari une seule année, mais en même temps, il est resté chez Red Bull une seule année. Il a fait 2013, puis après, il est parti. Alors, les circonstances ont fait qu'il y a eu le multi-21 entre les deux, donc c'est un peu ça, à partir de là, qu'il a pris la décision de partir. Mais voilà, il exprime pas forcément de regret sur le fait d'avoir re-signé chez Red Bull, parce que ce qu'il raconte aussi, c'est que du coup Red Bull, sachant qu'il était en pourparlers avec Ferrari, bah ils ont fait le tour du paddock, ils sont allés voir Hamilton et tout, et jamais ils lui ont reproposé de contrat jusqu'à ce que ça se fasse visiblement vite fait autour de Silverstone. Voilà. Il y a eu un revirement, donc a priori Red Bull n'a pas pu avoir Hamilton, quoi.
Alors sinon, autour du multi-21, on découvre qu'il y a eu visiblement une petite histoire d'avocat, hein.
Je l'ai pas vu cette partie là
parce qu'en fait Mark Webber a quand même été surpris qu'après le multi-21, Vettel soit pas plus sanctionné par Red Bull, hein, vu que c'était clairement de sa faute. Et apparemment Vettel, il aurait passé des coups de fil à ses avocats, il aurait bien épluché son contrat, et il aurait dit à Red Bull, ah non, mais vous comprenez pas, là, vous pouvez pas faire des reproches à Sébastien Vettel, c'est pas possible.
C'est-à-dire que Webber dit que juste après la course, Vettel, il serait pas en excuse et tout, j'ai merdé complètement et tout, et vous vous rappelez, après, en Chine, il était au contraire dans une posture où dire, voilà, moi, je suis champion du monde,
patron,
etc.,
hein.
etc. Et effectivement, il raconte que Horner a admis à Webber, a révélé que ils avaient reçu une lettre de l'avocat de Vettel, parce que son contrat lui interdisait qu'on lui donne une consigne de course déraisonnable. C'est toi qui as fait cette traduction avant l'émission. Et...
C'est ce que j'ai lu, hein, en français. Oui, c'est pas ça. De moi la traduction. Une consigne déraisonnable.
Il faut se souvenir que Vettel n'était pas encore champion du monde à ce moment-là. Enfin, champion du monde pour la quatrième.
Pour la saison.
Ouais, de cette saison-là. Donc, il pouvait revenir. Je crois qu'il n'était pas en tête. Voilà. Il pouvait revenir. Et c'est après qu'il a gagné tous ses succès. De la manière dont ça explique beaucoup de choses, en fait, dire le fait qu'il s'excuse et après qu'il assume. Il assume avec la certitude que de toute façon Red Bull n'allait pas pouvoir bouger, étant donné que c'était verrouillé au niveau des contrats et qu'il pouvait jouer sur cette clause. Donc,
de toute façon, les tensions ne datent pas du multi-21, parce qu'il cite notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne 2010, quelques années auparavant. Voilà,
il y a même avant.
Et la Turquie aussi.
Il y a une histoire de qui venait de gagner l'Espagne et Monaco à la suite. et que il y avait un nouvel aileron arrière qui arrivait chez Red Bull et que c'est Vettel qui l'a eu.
Enfin, apparemment, c'est, ouais, c'est Grande-Bretagne 2010.
Non, c'est là, c'est l'aileron arrière. C'est autre chose.
Ah, d'accord.
Parce que l'aileron, c'est là, Grande-Bretagne 2010, c'était l'aileron avant.
Ah,
et ils avaient tous les deux un aileron avant. Vettel l'a cassé en essai libre et ils ont pris l'aileron de Weber pour le mettre à Vettel. Voilà. Après, Weber est plus virulent avec le management de Red Bull qu'avec Vettel, avec lequel depuis, bon, ils ont.
Oui, il dit qu'ils s'entendent très bien et tout ça, voilà.
Bah, il est toujours consultant pour, j'imagine, Sky Australie, ou c'est peut-être un truc comme ça, ou BBC Australie.
Peut-être.
Donc, il est toujours plus ou moins dans les paddocks de F1, donc. Il veut pas se fâcher
dans les paddocks, je pense pas.
Non.
On l'a vu quand ? On l'a vu y a pas. Bon, on l'a vu en Australie.
On l'a vu au 24
heures. De temps en temps, oui, je dis pas, mais.
On l'a pas vu à Monaco aussi ?
Si, il était à Monaco.
Il y habite, donc bon.
Parce que justement, dans l'article que j'ai lu, il disait qu'il avait discuté à Monaco avec. C'est apparemment cette année, avec Vettel. Que ça avait. Ils s'étaient revus, qu'ils avaient.
Espérons que tout ça ne soit pas les pages les plus salées du livre.
Non,
plus.
Normalement, non.
Si tu veux le faire.
Mais il faut en garder un peu.
Bah oui.
Ouais, ça doit être un peu moins gros quand même. C'est bien qu'il raconte en fait. Les dessous, je pense que c'est bien. C'est aussi pour prouver qu'il était un bon pilote et qu'il s'est fait manger par la roublardise de Seb. Voilà. Bah ouais, c'est comme ça, mais il aurait été devant.
Il aurait fait pareil, Weber.
Il aurait fait pareil, ouais, je pense. Donc.
Après, c'est, je sais plus où c'est que j'ai vu.
Je pense que Seb avait plus de Sébastien Vettel a plus de vis que Weber, qui est un pilote, on va dire classique, on va dire. Pas de la même trempe que les Vettel, Alonso, Hamilton. C'est vrai qu'il est plus de la trempe d'un Rosberg ou d'un. Je vais dire un Raikkonen, mais il est un peu à part.
Non, Raikkonen, il est dans sa propre catégorie.
Oui.
Ouais, mais je veux dire, il est franc. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de pas franc. C'est ce que je veux dire de Weber. Bon, c'est quelqu'un de franc. Il aime le sport. La F1 comme sport, il aime ça.
Bon, après, il a quand même dû avaler plein de couleuvres pendant qu'il était chez Red Bull. Voilà.
Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Ouais.
C'est-à-dire que même son manager, qui est aussi sa femme, Anne Neal, dit que lui, il était bon pour un seul championnat, mais qu'il n'avait pas l'attitude qui consiste à dire « je me fous des autres et je pense qu'à moi », etc., pour parvenir à ses fins.
Que c'est très bien faire, Vettel.
Ah bah, il faut.
Mais il faut être égoïste quand t'es pilote.
Malheureusement, Weber, s'il avait eu un titre, c'était... Enfin, c'est peut-être un bon gars, mais pour avoir 4 titres, tu peux pas avoir 4 titres sans le faire aux dépens d'autres personnes, quoi. Enfin, t'es obligé déjà de marcher sur ton coéquipier un petit peu.
D'ailleurs, il a demandé pour l'année prochaine à ce qu'on garde Raikkonen.
Mais oui.
comme Alonso avec Massa à une certaine époque.
Oui. Bah, voilà. Justement, le baquet de Kimi. Alors, on a eu cette petite news. Hein, voilà. On se disait bon, bah, voilà, si Kimi ne vient pas. A priori, on sait qui ira à sa place. Et puis, il y a Ricciardo qui... Alors, il a calmé le jeu, quand même, hein, après. Hein. Il a dit, bah écoutez, un baquet Ferrari, pourquoi pas ? Oh !
Ouais, il n'est pas le seul à avoir calmé le jeu.
Oui.
parce que Horner aussi a révélé qu'il avait encore au moins 3 ans de contrat avec Red Bull.
Oui, mais Red Bull n'a pas forcément 3 ans de contrat vu qu'ils vont décider en janvier s'ils continuent l'année prochaine. Donc je pense que c'est très intelligent de la part de Ricciardo de se positionner et dire voilà, moi j'aimerais bien écouter Ferrari, moi si je tiens qu'à moi, je veux bien rouler avec vous, je me mets sur les rangs. Et si vous faites comme d'habitude et que vous décidez à Monza, je saurai déjà si je continue avec Red Bull. C'est voilà, c'est, en gros, c'est ça que ça veut dire. Il a tout intérêt à dire que il est disponible, même s'il l'est pas.
Il met l'idée en tête.
Voilà, exactement.
Voilà, il dit, ah, vous savez, en rouge pour être pas mal après tout.
Et puis,
même si c'est pas pour cette année, d'ailleurs, voilà.
Et puis Vettel.
Oui, non, mais après c'est bien connu, voilà, Vettel. Vettel, il va laisser revenir son pire cauchemar.
Non, ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Il revient, il sera pas revenir son pire cauchemar. Mais par contre, ce que qu'a fait Vettel en quittant Red Bull, c'est à montrer à Red Bull qu'on pouvait quitter l'écurie qu'il avait formée. Et Ricciardo pourrait faire de même. Et il montre à Red Bull, écoutez les gars, vous êtes nulle part, vous n'avancez à rien, la voiture est pas bonne, et il n'y a pas que le moteur. Donc il peut tout à fait dire, moi je veux partir. Et montrer que voilà, c'est pas acté dans le marbre que je suis un pilote Red Bull.
Le truc, c'est que Ricciardo, lui, de son côté, c'est pas un Vettel encore, et il aura pas de clause de performance comme l'a eu Vettel. Donc bon, pour l'instant, Red Bull est quand même parti pour rester au moins en 2016, parce que de toute façon, ils ont des contrats avec tout le monde, et que voilà.
Au moins 2016.
Voilà, au moins 2016. Donc bon, Ricciardo, il peut faire coucou à Ferrari tant qu'il veut, a priori, c'est quand même pas pour l'année prochaine.
Et alors sinon, un autre pilote qu'on devrait normalement voir en course d'ici la fin de saison, c'est Fabio Leimer, hein, qui a dit « Oui, quand même, d'ici la fin de saison, je devrais faire les courses, je devrais pas me cantonner qu'au vendredi. »
D'ailleurs, qui roule la semaine prochaine, enfin dimanche, pour Manor.
Je sais pas s'il y a eu la confirmation ou
pas. Ça n'a pas été confirmé. Moi, j'ai pas vu la confirmation.
A priori, c'est Merlin.
Ah oui, mais ça n'a pas encore été confirmé.
Et sinon, Fabio Leimer.
Si. Il est dans le bilan de la preview de Manor, c'est Merlin.
Manor. Ouais. Richard, tu voulais dire.
Et ben à propos de Fabio Leimer. Non, parce que comme Jackie fait Didier la déconversation.
Mais non, mais... Ah, il arrive, il a du pognon, il va sans doute piquer le baquet à Mary. La question c'est quand.
Non, mais on peut s'étonner quand même que Mary, qui a pas de pognon, soit toujours dans la voiture, alors qu'il y a quelqu'un qui en théorie, selon ses propres dires, a de l'argent, mais visiblement on veut pas le sortir. Parce que quelqu'un...
Est-ce qu'il a une super licence, Leimer?
Ah, il peut-être là le problème. Est-ce qu'il a ses 18 ans?
Non, mais pour l'instant c'est pas encore, c'est pour l'année prochaine, mais
Ah oui, c'est vrai.
Fabio Leimer.
Mais c'est vrai que Leimer, c'est le moment ou jamais, parce que s'il a pas les 40 points pour l'année prochaine, bah a priori il a été champion du GP2 quand même. Donc il les aura, mais
En 2013.
Oui, donc ça devrait compter. 2013, 2014, c'est sur 3 ans hein, les points. Sur les 3 années.
C'est sur
3
ans, c'est... Oui.
Donc okay. Oui, ça le fera. Mais, mais bon, quand même.
Et puis après, non, c'est pas le reste de ses résultats 24 en endurance et au Formule 1.
Mais c'est dommage parce que Mary commence à montrer.
À faire jeu égal avec dégueulasse. Hein.
Ouais. Donc bon. Et Stevens, pardon, mais s'il a de l'argent, il a pas les sponsors qui vont avec, quoi. C'est de l'argent vraiment privé, parce que la Marussia est toujours aussi vide de sponsors.
Oui, c'est vrai.
Ouais, puis on peut supposer qu'il y avait qu'une seule voiture qui était compétitive chez Manor en début de saison, et maintenant que les deux voitures, la voiture de Stevens est usée, on va dire, un peu plus usée, elle se retrouve au même niveau que celle de Mary.
Donc, tu fais bien de parler de mise à jour, parce qu'a priori, Manor va avoir des mises à jour pour ce Grand Prix-là.
Ah ouais. Ah, bonne nouvelle, j'ai envie de dire.
Oui.
Mais genre aéro ou ils vont juste changer la couleur de deux stickers?
Non, 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 non. Eux, puisque c'est leur première mise à jour depuis l'Australie 2014.
Ah oui, quand même. Donc, ah oui, c'est vrai, oui. Australie 2014. Putain.
Non, mais outre l'adaptation de la voiture au règlement 2015. En tout cas, le premier package d'envergure, ça devait être le package qui devait être fait l'année dernière pour Silverstone 2014, mais qu'ils n'ont pas pu faire faute d'argent.
Et donc, ils font pour Silverstone 2015.
2015, ouais. C'est génial. Ça sert, au bout d'un moment.
Non, mais du coup, c'est bien. Parce... Ouais, je veux faire un peu d'humour, mais c'est pas méchant. C'est après avoir recyclé la voiture 2014, ils recyclent aussi les packages 2014, du coup.
Donc voilà, messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'actualité. À moins peut-être vous ayez deux actus, vous auriez remarqué. Bien, oui, c'est pas mal.
Toujours pas de nouvelles du Ah merde, du groupe stratégique. Donc,
Non, bah non, voilà.
Ils se sont peut-être noyés, je sais pas.
Ils ont fondu. Tous ces tripés, tu sais, ils sont tellement pas mis d'accord.
Ils avaient rendez-vous où? Est-ce qu'on le sait? À Paris? À Silverstone?
Je sais même pas.
Silverstone, sans doute.
J'ose imaginer, oui, que bon, voilà, le Grand Prix arrivant.
Non. Vous pouvez très bien le faire à Paris, c'est pas très loin.
Est-ce qu'on fait un sondage cette semaine?
Est-ce que quelqu'un a des idées déjà?
Ouais, déjà, ouais.
T'as pas un fichier non. où tu mets tes idées de sondage, Gus Gus?
Ah non, ah non, non. J'ai aucune idée de sondage.
Ah, je suis pas très fort sur les sondages, moi.
Déjà que le reste.
Ah c'est vrai que. Comme ça, là, non, j'ai pas d'idée.
Non, c'est bien, allez.
Ouais, ouais. Gardons. Ouais. Voilà, vous aurez 2 semaines de plus pour le sondage. Rappelons, hein, le sondage actuel. Extrêmement important, le sondage actuel. C'est l'avenir de la F1 qui est en jeu.
Clairement.
Quelle innovation pourrait apporter un nouveau manufacturier de pneus en F1?
Ah oui, il y a match en plus. Quoi. Enfin,
c'est... Ouais, carrément. Donc voilà, on va vous laisser encore le sondage. Normalement, d'ici 2 semaines. Voilà. Ça nous sera le temps de trouver des nouvelles idées. Et c'est compliqué avec toute cette chaleur et tout. C'est difficile de réfléchir.
Ah bah là je suis en surchauffe. Hein. On est tous en surchauffe. Hein.
Moi, je suis surtout crevé.
Dans ce cas-là, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Mmh. Les rappels, le réseau habituel, le SAV de la F1, et sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Point Radio, c'est sur PodCloud, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, @leSAVF1, sur YouTube, et même sur Stand F1. Parce que la F1 sur Internet, c'est sur...
SAVF1.fr.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
Le risque de podcast.
La famille.
C'est chaud.
Ici, British cette semaine.
Oui, rappelons, ce week-end, Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, de la vitesse, de l'aérodrome de la RAF, enfin, vous connaissez tout le truc classique de Silverstone.
Do you want some more tea, please?
Qu'est-ce qu'il nous fait?
Bah, il révise son anglais pour écrire sa lettre au GPDR.
I'm so British.
Donc un Grand Prix qui risque d'être bien chaud, hein, peut-être même orageux. Tout à fait.
Est-ce que les voitures vont passer très très vite dans l'enfilade là? Puis l'ancienne voie des stands, je crois.
Oui, ça n'intéresse que toi, Jackie, je crois.
Hein. Ah non, oui. Mais c'est. les Pirelli, est-ce qu'ils vont tenir ces.
Conclue, Shinji, conclue.
Oui, oui. N'oubliez pas, donc, comme d'habitude, hein, y aura les articles habituels du SAV de la F1, l'émission des qualifs samedi. On peut pas vous dire encore à quelle heure, mais il y en aura une. Ainsi que lundi soir, comme d'habitude. Hein. Oui, non, c'est bon. Ainsi que lundi soir. Alors, écoutez. Pour finir cette émission, je vous souhaite tout simplement de survivre à ces chaleurs, hein. Ça serait bien, quand même. Et puis, tout simplement une bonne course.
Ouais.
Oui, bonne course.
Bonne course.
Au frais.
Au frais. Ouais, au frais. Ouais. Allez, ciao.
Dans le frigidaire.
Allez, salut. Ciao.